إن الحمد لله نحمد عينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. En cette soirée du samedi 13 d'Oul Qa'da 1433 de l'Hégire, correspondant au 29 avec 12, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Inch'Allah, toujours avec ce long hadith numéro 60, le hadith de l'islam, l'iman et la vertu. Une seconde. Hicham, Hicham. هشام هذه جبريل. نعم، هيا تسلم تسلم. هيا يا كاكن كي فا فو باسي السلام. هيا قول لهم
السلام.
لا لا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صح، زيد
كيف حالكم؟ بخير.
صحيت. هيا قال لك عليك السلام. هيا روح. Donc je disais, Hadith Jibril alayhi salam, naam, Hadith Jibril alayhi salam. Ensuite, pour résumer un peu et commencer le nouveau, inshallah ta'ala, vous savez que l'islam a cinq piliers. L'islam a cinq piliers et l'iman a six piliers. L'islam, les cinq piliers, c'est l'action de l'unicité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, salat, zakat, ramadan, et le hajj pour celui qui peut. Quant à la foi, les six piliers, iman billah, à la foi en Allah, et kutubihi, ses livres, ou bien rusul, non, kutubihi, rusulihi, ensuite ses messagers, ou iman billah, afwan, iman billah, wa malaikati, ses anges, ensuite kutubihi, non, ses livres, rusulihi, ses messagers, et ensuite, le jour dernier, cinquième et sixième, l'iman de la prédestinée ou la prédestination. Nous sommes, inshallah ta'ala, aujourd'hui à l'iman au livre, en ces livres, Azza wa Jal. Le shikh dit, wa qawluhu wa kutubihi, et sa parole en ces livres, wa huwa ruknu thalith, c'est le troisième pilier. Wa al-kutubu jam'u kitab, al-kutub, en arabe, c'est le pluriel de kitab. En arabe, au singulier, on dit kitab, au pluriel, on dit kutub. Kutub. La foi en ces livres. Ou le mouradu bihi, el kitab ou l'adi anzalahu Allah ou al-rusul. Et ici, on parle de quel livre? Les livres dont on parle, c'est les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses messagers. Que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses messagers. Fa kullu rasulin lahu kitab. Donc, chaque messager a un livre. Chaque messager livre. Naam. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan. Shura 17. Shura 17. C'est Allah ta'ala qui a fait descendre le livre en toute vérité, ainsi que la balance. Il constitue peut-être que l'heure est proche. Al-muhim, le titre, c'est Allah qui a fait descendre le livre en toute vérité, ainsi que la balance. La balance, bien sûr, Allah Ta'ala n'a pas fait descendre une balance du ciel, mais il a ordonné la justice. Il a fait descendre quoi? Le commandement de la balance, qu'il faut, il faut quoi? Il faut, yani, être équitable et juste. فقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الحديد 25. Il a dit aussi, Azza wa Jal, dans le hadith 25, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. Et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Nous avons fait descendre le livre. Donc quand il a parlé des messagers, il a parlé des livres. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre. Le livre. Lakin. من الكتب ما لا نعلمه ومنها ما نعلمه. Le Cheikh dit, mais parmi les livres que Allah Ta'ala fait descendre, il y en a ceux qu'on connaît et ceux qu'on... Il y a des livres qu'on connaît et des livres qu'on ne connaît pas. Fattawrat, la Torah par exemple. Le Cheikh dit, Fattawrat, la Torah par exemple. وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام معلوم. Il a dit par exemple la Torah que Allah Subhanahu wa Ta'ala a fait descendre sur Moussa. Moussa alayhi salam, il a dit, ma'loum, est connu, le livre est connu, la Torah. Ou l'Injil, et l'Évangile, c'est quoi? Ou le kitab, l'a dit, anzalahu Allah ala Isa alayhi salam, ma'loum. L'Évangile, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Isa, Jésus, Isa alayhi salam, il a dit, c'est connu. Ou souhuf Ibrahim, ou souhuf Ibrahim alayhi salam, madkoura fil Coran. Et les feuilles, de Ibrahim, ou bien les feuilles, ou bien les psaumes de Ibrahim alayhi salam, qui ont été cités dans le Coran, c'est connu aussi, c'est connu. Wazabur Daoud, et le livre que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur Daoud alayhi salam, Madkour fil Coran, a été cité dans le Coran, il est connu aussi. On sait qu'il s'appelle Zabur, c'est un livre, Zabur ça veut dire livre. Wazuhuf Moussa alayhi salam, إن كانت غير التوراة مذكورة في القرآن أيضا. Et maintenant les feuilles de Moussa عليه السلام. Le Cheikh dit, si ce n'est pas la Torah, si ce n'est pas la Torah, ces feuilles ont été citées aussi dans le Coran. Au Suhuf, Ibrahim ou Moussa. Donc, pourquoi c'est pas la Torah? Car Allah Ta'ala, en parlant de Moussa, a cité la Torah. Et dans un autre verset, il a cité les feuilles de Moussa. Donc, est-ce qu'il veut dire par les feuilles la Torah ou bien Allah Ta'ala a fait descendre sur Moussa la Torah et a fait descendre aussi des feuilles? Allah subhanahu wa ta'ala alam. Le Cheikh lui-même yani, ne sait pas. فَمَا ذَكَرَ اللَّهُ إِسْمَهُ فِي الْقِبَ الْإِيمَانُ بِهِ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ. Le Cheikh dit yani, ce que les livres dont Allah Ta'ala a cité dans le Coran par nom, les appeler par des noms. Comme il a dit Torah, comme il a dit Injil, il a dit cela, on doit croire en eux, en ces livres, avec leur nom. Avec leur nom. وَمَا لَمْ يَذْكُرْ فَإِنَّهُ يُؤْمَنُ بِهِ إِجْمَالًا. Quant aux livres qui ont été cités, et dont Allah Ta'ala n'a pas donné de nom, il a dit seulement j'ai descendu des livres, cela, yani, on doit croire en eux globalement, globalement, yani, sans qu'on connaisse leur nom. Parce qu'on ne connaît pas leur nom. فَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كِتَابًا. On doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Moussa alayhi salam un livre qui s'appelle la Torah. وَعَلَى عِيسَى كِتَابًا هُوَ الْإِنْجِيلُ. Et sur Isa alayhi salam un livre qui s'appelle l'Évangile. وَعَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كِتَابًا هُوَ الزَّبُورُ. Et sur Daoud alayhi الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ qui s'appelle David, David un livre Allah Ta'ala fait sur lui un livre qui s'appelle Zabur. Ou ala Ibrahim alayhi salam, suhufan. Et on doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Ibrahim des feuilles. Naam, hakada naqul. C'est comme ça qu'on doit dire. Wa la ya'ni dhalika anna ma wujida 'inda an-nasara al-yawm huwa alladhi nazala 'ala 'Isa. Le Cheikh dit, et ceci ne veut nullement dire, ne veut dire que ce qu'on ce qu'ont les chrétiens aujourd'hui entre leurs mains comme livre. Naam. Il dit, cela ne veut nullement dire, je répète, Naam. Cela ne veut nullement dire que ce qu'ont les chrétiens aujourd'hui entre leurs mains, ça veut dire, yani, peut, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ça ne veut pas dire que c'est ça ce que Allah ta'ala fait descendre sur Isa alayhi salam. لأن الأناجيل موجودة في أيدي النصارى اليوم محرفة ومغيرة مبدل. Pourquoi? Tout simplement parce que les évangiles qui se trouvent aujourd'hui entre les mains des chrétiens ont modifié, altéré et même changé. لعب بها قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفوا. Il a dit les responsables, c'est-à-dire les évêques, les curés, les papes, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit ils ont joué. Yani, jouer ici, il veut dire ils ont falsifié, ajouté, retranché, là, dans leur Bible. Et c'est devenu un jeu chez eux. Non. S'il y a une chose qui ne leur plaît pas, ils l'enlèvent. S'il y a une chose qui leur plaît, même s'il n'y a pas, ils l'ajoutent. Non. ولهذا تجدهم تنقسم تجدها تنقسم الى اربعه اقسام وخمسه. Les chrétiens n'ont pas un seul livre. Non. Mais 4 ou 5 livres. Si tu vas leur dire, j'ai lu ça dans l'évangile, il te dit quel évangile? De Marc, ou de Tom, ou je ne sais pas comment ils s'appellent les 4 autres. Ou de X ou de Y. Naam. Donc, naam, c'est pas comme nous on a un seul Coran. Nous on a un seul livre. Ils en ont 4. Et tous les 4 ou 5 s'appellent quoi? S'appellent les évangiles. Naam. Si quelqu'un peut m'écrire les 4 noms des autres, je les ai oubliés. Je les connaissais autrefois, mais je les ai oubliés. Très connus. Je me rappelle seulement de Marc maintenant. Naam. ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل على عيسى كتاب واحد. Il a dit malgré ce qu'a fait Allah Ta'ala descendre sur Isa alayhi salam, sur Jésus, un seul livre. Il n'a fait descendre qu'un seul livre et pas 4 ou 5. لكن الله تعالى إنما تكفل بحفظ الكتاب الكريم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. Il a dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala spécialement voulu que ce soit lui qui préserve le livre qu'il a fait descendre sur le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Quant aux autres prophètes, نعم, il aura demandé que ce soit eux qui préservent. Qui préservent leurs livres. Bien sûr, ils n'ont pas pu. Quant au Coran, il a dit, c'est moi qui le préserve. C'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui le préservons. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidun. Comme ça, il a dit dans un verset. Naam. Li'annahu. Pourquoi spécialement, yani cette spécificité à ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? لأنه لا نبي بعده. Tout simplement, qu'après lui, il n'y aura plus de messager. يبين للناس ما هو الصحيح. Après lui, Muhammad عليه الصلاة والسلام, il n'y aura aucun messager qui va venir pour montrer aux gens, يعني, quelle est la vraie parole d'Allah et quelle est la parole qui a été falsifiée. أما الكتب السابقة فإنها لم تخلو من تحريف. Livre précédent, à part le Coran, naam, yani, il n'y a pas un livre qui n'a pas été altéré ou falsifié. لأنه سيبعث أنبياء يبينون في الحق ويبينون في المحرف. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala savait que à chaque fois il va y avoir un nouveau messager qui va venir. Donc ce messager qui va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il est aux gens qu'est-ce qui a été altéré du livre précédent. Mais quant à Mohammed alayhi sallam, puisque c'est le sceau de la prophétie, il n'y aura aucun messager qui va venir après lui pour montrer aux gens et leur dire voilà ce qui a été falsifié. Donc Allah Ta'ala a voulu que rien ne soit falsifié du dernier livre. J'attends que vous m'écriviez les quatre yani évangiles à qui ils appartiennent. J'attends que vous m'écriviez, inshallah ta'ala, à qui ils appartiennent. L'un il appartient, voilà, Matthieu, ça. Et l'autre, Marc. En arabe, ils disent Morcos. Naam, le troisième, c'est qui? Le quatrième, c'est qui? في أن لوك، نعم لوك، إكي الكاتريام؟ جون، بارك الله فيك، نعم، ماتيو، مارك، لوك، جون، يا أن سانكيام، يا أن سانكيام. Et bien sûr, ce qu'il y a à l'intérieur de ces quatre, il y a des choses qui se ressemblent et il y a beaucoup de choses qui ne se ressemblent pas. Beaucoup de choses qui ne se ressemblent pas. C'est pour ça qu'il y a toujours, yani, entre eux, bien, il y a toujours quoi? Il y a toujours, il n'y a pas d'entente. Il y a même des disputes. Naam. Et l'autre, ils disent on est orthodoxe, les autres, ils disent on est catholique. Et les autres, ils disent aussi, il y a une troisième secte très connue, attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Orthodoxe catholique et l'autre qui se trouve en Angleterre, etc. C'est une chose très connue. Orthodoxe catholique et protestant, Baraklov, et qui proteste. Il n'accepte pas. Il n'accepte pas de dire que dans le christianisme, il y ait quoi? De dire que Jésus, c'est le fils d'Allah. Ils ont protesté. Ils disent non. C'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'ils sont proches parmi les chrétiens. Ils disent que Allahu alam, ce sont les plus proches de l'islam à cause de cette chose. À cause de cette chose. C'est pour cela aussi qu'ils sont Barnabé, naam, très connu. Ça, très connu. Naam, barakallahu fikum. C'est pour ça que les protestants, Allahu alam, c'est je crie, ils ne sont pas yani, nombreux. Les catholiques sont les plus nombreux, les protestants les moins nombreux. Pourquoi? Ils sont les plus proches par rapport aux autres. Ils sont les plus proches par rapport aux autres. Wallahu alam. Al-muhim. Min ajli an ya'lam an-nas hajatuhum ila al-anbiya idha wajadu al-kutub muharrama. C'est ça le secret pourquoi yani Allah subhanahu wa ta'ala envoyait à chaque fois un messager. Surtout aussi pour leur corriger les fautes qu'il y avait dans les livres qu'ils ont falsifiés. Et ça veut dire aussi, ça va montrer l'importance de l'envoi des messagers. S'il ne t'envoie pas un messager, tu ne vas pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tout fait. Donc il va envoyer un nouveau messager à chaque fois pour corriger ce que les autres, yani les fautes qu'ont fait les autres. Non. Mais quant au Coran, c'est pas la peine. Allah subhanahu wa ta'ala a pris lui-même quoi? La décision que yani, il va le préserver bi'idhnillah ta'ala. Donc, ça n'a pas besoin qu'il envoie un autre messager. Khlas, aucun messager. Et non seulement Allah ta'ala l'a préservé, il va préserver son livre. Il y a bien sûr un verset en ce sens. Mais aussi, il a lancé un défi. Un défi si quelqu'un peut, jusqu'à la fin du monde, ajouter un mot au Coran ou bien retrancher. Subhanallah al-Azim. S'il y a quelqu'un qui peut ajouter ajouter seulement un mot ou bien le retrancher. C'est impossible. Vite, yani, on le découvrira. Vite, les gens diront, attention, il ne faut pas suivre le Coran qui a été imprimé dans telle et telle maison d'édition. Pourquoi? Par exemple, les Juifs ont ajouté un mot à l'intérieur, ou bien les chrétiens, ou bien ils ont retranché un mot ou un verset. Donc c'est impossible. Naam, pourquoi aussi? Il est appris de poitrine. Naam, de la poitrine. Comme Allah Ta'ala dit, bel huwa ayatun bayyinat fi sudur alladhina utul ilm. Il a dit, le Coran, c'est des versets clairs. Il a dit, pas dans les feuilles. Il a dit, fi sudur, dans les poitrines de ceux qui ont la science. Vous trouvez un garçon, ou même une fille, qui a 5 ans, il apprend le Coran par cœur. 5 ans. Des fois 4 ans. 4 ans, il connaît le Coran par cœur. Qu'en est-il de ceux qui ont 10 ans et 20 ans et 30 ans, et qu'en est-il des savants, etc. Combien il y a de gens qui apprennent le Coran par cœur? Des millions. Des millions, peut-être des milliards. Là. Donc c'est impossible que quelqu'un vienne et dise un mot en plus ou un mot en moins, c'est impossible. On lui ramène un enfant de 5 ans, on lui dit récite-lui le Coran. Il va voir que l'autre a ajouté quelque chose ou bien retranché quelque chose. C'est impossible. C'est pour ça que, par exemple, là, je donne un exemple, là, c'est très rare, par exemple, que vous trouviez quelqu'un, par exemple, qui apprend l'évangile par cœur. Il faudrait vraiment qu'il soit un pape ou un curé ou un évêque ou là. Mais يعني, faire venir quelqu'un de 5 ans, 10 ans et lui dire, allez, récite-nous l'évangile du début jusqu'à la fin, il ne pourra pas. Non? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas là. Si ça existe, ça se compte sur les bouts des doigts. Sur les bouts des doigts. Il a dit, faut le mot. L'important ici, نؤمن بأن الكتاب الذي نزل على النبي النبي المعين حق من عند الله، لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل، بل قطعا إنه محرف ومغير مبدل. Il a dit. Le plus important ici, c'est quoi? C'est de croire, نعم, que Allah سبحانه وتعالى a fait descendre sur les messagers, sur chaque messager, un livre. Un livre, نعم. C'est ça le plus important dont il faut croire. Et non pas croire que le livre qu'il y a maintenant entre les mains des gens non musulmans, c'est le livre que Allah Ta'ala a fait descendre. Non. Il a dit bien au contraire, on doit être convaincu que ce qu'il y a maintenant entre les mains des gens qui ne sont pas musulmans, que ce n'est pas le livre que Allah Ta'ala a fait descendre. Que ce n'est pas le livre qu'Allah Ta'ala a fait descendre. Quand on dit ce n'est pas le livre, ça veut dire qu'il y a des choses en plus, il y a des choses en moins. Mais ça ne veut pas dire aussi que tout est faux. Non, on ne dit pas tout est faux. On dit il y a dans l'évangile, et beaucoup de choses aussi, qui viennent d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais beaucoup d'autres aussi qui ne viennent pas d'Allah Ta'ala, qui ont été falsifiées. Donc tu ne peux pas savoir toi où est le vrai, où est le faux. Donc tu seras obligé de quoi? De délaisser le tout. Ne sachant pas où est le vrai, où est le faux, je suis obligé de quoi? De délaisser le tout. Sinon quoi? Sinon, adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec des choses qui n'existent pas, parce que j'ai pris tout. C'est comme si on va me dire, il y a deux poulets devant moi. Mais on va me dire, il y a un poulet qu'a égorgé un musulman par exemple, et un poulet qu'a égorgé par exemple un bouddhiste. Donc, l'un des deux est haram. L'un des deux ne peut pas se manger. On ne peut pas le manger. Un musulman ne peut pas manger l'un des deux poulets. Mais je ne sais pas exactement quel est l'un des deux poulets que je ne dois pas manger. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7, je vais le manger. Ce n'est pas au hasard, non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois délaisser les deux. Comme ça. Je suis sûr de ne pas avoir mangé de haram. Mais si je mange les deux, je suis sûr d'avoir mangé du haram. Mais si je mange l'un des deux, à 50% j'ai mangé le haram, à 50% j'ai pas mangé, et je vais rester toute ma vie avec des remords. Peut-être j'ai mangé, peut-être j'ai pas mangé. Peut-être j'ai mangé, peut-être j'ai pas mangé, et je vais pas dormir, je vais avoir des ouesouesses. Alors, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaisse ce la chose qui te fait des doutes pour la chose qui ne t'en fait pas. Alhamdoulilah, c'est une règle. C'est une règle qui va te laisser le cœur apaisé. Elle va te laisser le cœur apaisé. Al-Muhim, il a dit: Wa min al-imani bil kitab an tu'mina bi anna kull khayrin ja'a fiha fa huwa haqq. La foi en les livres, dans les livres. Parce qu'on parle maintenant du troisième pilier, la foi dans les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va dire, rentre dans la foi. C'est pas aussi que tu dises que Allah Ta'ala a fait descendre un livre sur chaque messager. C'est pas seulement ça. Ça suffit pas. Mais aussi de croire que, nam, kulla khabar, que chaque information, chaque texte qu'il y a dans le Coran, afwan, dans le livre que Allah Ta'ala a fait descendre, est quoi? Est une vérité et contient la vérité et comporte la vérité. Naam. Avoir un doute que quoi? Que peut-être c'est pas vrai ce qu'il y a. Kama anna kulla khabarin fil Qur'an fa huwa haqq. Comme tu dois croire en tant que musulman, toi, que chaque verset dans le Coran qui comporte une information, naam, est une information véridique. Véridique. لأن الأخبار التي جاءت في الكتب التي نزلت على الأنبياء من عند Pourquoi? Tout simplement parce que ces informations-là qu'il y a dans le Coran, ces textes-là, ou alors dans les livres qui ont été descendus sur les messagers viennent de qui? Viennent du Créateur. Est-ce que le Créateur peut se tromper? Le Créateur, s'il te dit que la terre est ronde, tu vois que la terre n'est pas ronde. Toi, quand tu marches, tu vois que la terre est plate, elle n'est pas ronde. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas, ou là, qui tu vas croire? Tu vas croire ton Créateur qui a créé la terre et qui t'a créé toi et qui te dit la terre est ronde, ou bien tu vas croire tes yeux et ta logique qui dit quoi? Qui dit que c'est pas rond, c'est plat. Non, je marche d'ici à Alger, d'ici à je ne sais pas au rond, je fais 600 km, c'est toujours plat. Je dois croire qui? Je dois croire le Coran, le Créateur. Non. Et bien sûr, maintenant, ils ont su, quand ils ont pu sortir de l'orbite, ils ont su que la Terre était ronde. Ils ont été obligés, pour savoir cela, de s'éloigner de la Terre, de sortir de l'orbite pour pouvoir croire qu'elle est ronde. Logiquement aussi, si on avait suivi année, si on peut suivre vraiment la logique, on peut trouver que c'est rond aussi. Pourquoi? Parce que si tu démarres d'un point, hein, tu fixes un point, tu dis je vais démarrer de cette ville-là. Et je vais marcher tout droit, seulement tout droit, tout droit, tout droit. Tu vois, avec une boussole bien sûr, pour ne pas dévier, ni à gauche ni à droite. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Tu vas faire combien? 1000 km, 10 000, 100 000, je ne sais pas combien il y a de kilomètres pour faire le périmètre de la Terre. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver à l'endroit où tu as démarré. Après 10 ans, après 20 ans, je ne sais pas combien tu vas prendre de temps pour faire le tour. Si tu ne dévies ni à droite ni à gauche, tu vas sortir. Yani, tu vas te trouver au même endroit, devant l'arbre, là, le poteau duquel tu as démarré. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que c'est rond. Si c'était pas rond, tu ne serais jamais revenu au même endroit. Si c'était tout droit. Si c'était pas rond, plat. Tu serais marché, marché, marché. Ensuite, un jour, tu aurais trouvé quoi? Khlas. Maintenant, je ne peux plus. Ici, c'est la fin. Si je marche encore, je tombe. Il y a l'abîme. Mais là, tu vas revenir au même endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est rond. Et moi, donc, chaque texte qui contient une information, qui dit telle chose ou telle chose, tu dois être convaincu que c'est une vérité, même si pour toi, avec tes yeux, avec ton esprit, yani c'est qu'on va dire, puisque Allah Ta'ala a dit cette chose, c'est cette chose. Je donne un autre exemple. Allah Ta'ala a dit, Allah alladhi khalaqa sab'a samawatin matana. Allah Ta'ala, il a dit, Allah Ta'ala qui a créé sept cieux. Et pourtant, toi, quand tu vois, combien tu vois de ciel? Tu n'en vois qu'un seul. Comment tu vas faire maintenant? Tu vas croire au Coran qui dit qu'il y a sept cieux, ou bien tu vas croire à toi-même, en toi-même, et ce que tu vois. Tu vois qu'il y a seulement un ciel. Donc, si tu vas dire il n'y a qu'un ciel, qu'est-ce qui va se passer? Tu es sorti de l'islam. Tu es sorti de l'islam. Le Coran t'a dit, il y en a sept. Toi, tu dis non, il y en a seulement un seul. Qu'est-ce que tu dois donc dire? Tu dois dire, il y a sept cieux. Je t'ai dans son Coran qui a dit sept cieux. Même si moi, je n'en vois qu'un seul. Même si moi, je n'en vois qu'un seul. Non. Al-Muhim. وَكَذَلِكَ تُؤْمِنْ بِأَنَّ كُلَّ حُكْمٍ فِيهَا صَحِيحٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ حَقٌ. يعني أن كل حكم لم يحرف ولم يغير فهو حق، لأن جميع أحكام الله التي ألزم الله بها عباده كلها حق. Il dit aussi, rentre dans la croyance en ces livres, Azza wa Jal, c'est de croire aussi que chaque verset qu'il y a, chaque texte, Naam, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il n'a pas cité aussi, ici aussi quelque chose de bien, c'est dommage. C'est de croire que yani, chaque texte, s'il contient une information, cette information est véridique, on l'a dit. Et s'il contient un jugement, faites ceci, faites cela, tu dois aussi croire que c'est adl. C'est quoi? c'est la justice, c'est l'équité. Naam, c'est la vraie justice, c'est la rahma encore, c'est la rahma. Naam, et c'est l'équité. Quand par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, là, dans un exemple, il dit par exemple, attendez, je crois que j'ai le verset ici, une seconde, là. Je crois que j'ai le verset. Une seconde. Il n'y a pas ici. On doit croire aussi que, comme j'ai dit, que tout ce qu'il y a dans le Coran, si c'est une information, elle est véridique. Si c'est un jugement, c'est quoi? C'est l'équité et la justice. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Je lis ici, alhamdoulilah. Regardez ce verset. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Je répète. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité, si c'est une information. Et en toute équité, si c'est un jugement. Quand Allah Ta'ala donne une information, elle est véridique. Elle est véridique. Même si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit que par exemple, si jamais une mouche tombe dans un verre, l'une des deux ailes contient du poison et l'autre contient quoi? Contient l'antipoison. C'est pour ça qu'il faut la tremper. Vous trempez la mouche à l'intérieur, ensuite la jeter. Ensuite, si tu ne peux pas boire, au moins tu as appliqué la sunna. Al-Muhim, quand il a dit que l'une des deux ailes contient du poison, et l'autre contient quoi? L'anti. Tu vas dire, moi, j'ai jamais vu que l'une des deux ailes contenait du poison, ou contenait une maladie, ou un microbe, ou un virus. Tu dis, comment je peux pas? Qu'est-ce qu'on dit? Et on dit, tu dois croire. Une seconde. Je disais, vous m'entendez, je disais. Alhamdoulilah. Donc, je crois en des choses, non, je crois en des choses, même si, yani, je ne connais pas la vérité. Moi, personnellement, je ne connais pas cette chose, mais le hadith étant authentique, il a dit cette chose, ou bien le verset a dit cette chose, c'est terminé. Même si je n'ai pas compris cette chose maintenant, je vais la comprendre plus tard. Même si la chose n'a pas été découverte maintenant, elle sera découverte en son temps, yani opportun bi'idnillahi ta'ala. Al-Muhim, s'il contient une information, je dois croire en cette information, et s'il contient un jugement, je dois croire que ce jugement est yani la justice, l'équité, la vraie justice. Là, par exemple dans Westmore avec l'héritage, quand il dit si c'est un garçon, il prend le double. Non. Quelqu'un va dire donc il n'y a pas de justice. Comme ici, les laïcs, etc. Ceux qui détestent l'islam. Il n'y a pas de justice. Le garçon, il prend le double. Et la fille elle, miskina, yani, on l'a lésée. On lui a enlevé ses droits. Mais ils oublient que, en islam, c'est quoi? C'est l'homme qui donne quoi? Qui donne la dot quand elle va se marier. Non, il lui donne la dot. Et elle, quoi? Elle peut demander ce qu'elle veut. Elle dit, je veux comme dot. Je veux 200 000 euros. Il doit la donner si elle a demandé cette dot, ou alors il va se marier avec une autre qui n'a pas demandé cette chose. Chez eux, non. Chez eux, peut-être dans certaines sociétés, c'est la femme elle-même qui donne la dot à l'homme pour se marier. Ça existe dans certaines sociétés. C'est la femme qui donne la dot à l'homme pour qu'il l'épouse. Al-Muhim, si Allah subhanahu wa ta'ala dit que, s'il dit que, si quelqu'un vole plus de 1,5 gramme, 1,25 gramme d'or, il faut lui couper la main. Il dit que l'islam, c'est de la barbarie. Ça enlève quoi? Ça enlève les mains des gens. La barbarie. Naam. Si quelqu'un tue quelqu'un, l'islam dit il faut le tuer. Eux, ils disent c'est la barbarie. Pourquoi on tue quelqu'un? On lui enlève son âme, subhanallah al-azim. Vous êtes vraiment des sadiques. Alors que ceux qui disent comme ça et critiquent, eux-mêmes, dans leur société, dans leur loi, ils quoi? Ils tuent celui qui tue. Aux États-Unis, jusqu'à de nos jours, celui qui tue, il le tue. Jusqu'à de nos jours. Ce qui a c'était la chaise électrique, et maintenant c'est devenu avec quoi? Avec une piqûre. On lui jette une piqûre, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur, quel poison, je ne sais pas quoi, il va mourir. Mais ils le tuent. Ils ne disent pas, et on ne le tue pas, ils le tuent. Ceux-là qui eux-mêmes critiquent l'islam. Pourquoi? Parce que, si tu vas bien réfléchir, et méditer seulement, c'est illogique que quelqu'un ôte la vie à quelqu'un, bien sûr, sciemment, il a fait exprès, et que maintenant, lui, il vive, et l'autre, il est mort. Est-ce que vous acceptez ça? Subhanallah l'adim. Quelqu'un vient de me tuer, je ne sais pas qui. Mon frère ou là, mon fils. Ensuite, mon frère et mon fils. Je le mets sous la terre, il est enterré, il est parti, je ne vais plus le voir. Jusqu'au jour de la résurrection. Et l'autre, celui qui l'a tué, mashallah, il est en face de moi, c'est mon voisin avec sa voiture, avec je ne sais pas qui, il joue, il danse, il rit, il rigole. C'est logique ça? C'est pas logique. Bien sûr, s'il ne l'a pas fait exprès, il est excusé. S'il est fou, il est excusé. Si il est excusé. S'il avait perdu la raison, il est excusé. Mais nous, on parle de quelqu'un qui le fait exprès. Il dit, celui-là, je vais lui ôter sa vie. Ensuite, on le laisse comme ça. Sinon, on va dire, celui qui le tue, c'est un sadique. C'est un sadique. La même chose pour le voleur. Quand on lui coupe la main en islam, il faut des conditions. Entre autres, qu'il vole quelque chose qui coûte au moins l'équivalent d'un gramme, 25 en or. C'est pas il vole un œuf, mais il vole un bonbon ou une date. On parle deuxièmement, il faut aussi que ça remplisse les conditions, que le voleur soit quelqu'un de pubère, soit quelqu'un qui raisonne, soit quelqu'un qui n'était pas en état d'ébriété, il était sous, soit quelqu'un qui n'est pas un fou, soit quelqu'un qui travaillait, c'est pas qu'il était dans la famine, il a volé pour manger. Classe, il allait mourir lui et sa famille. Il n'a pas de quoi manger. Il a tendu sa main, personne ne lui donne un sou pour acheter un pain. Il a dit, oh là, je vole. Celui-là, on ne lui coupe pas sa main. Il a volé pour manger. El Mohim. Et quand on lui coupe sa main, est-ce que l'islam veut couper les mains pour les mains? Pour que tout le monde. Comme ça vont dire les gens. Ils vont dire, khlas, si on va couper les mains maintenant, aujourd'hui on coupe 100, demain 200, dans 3 jours on coupe 100, et d'ici une année on aura coupé. 1 million de mains. On va leur dire, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire ça, et que les voleurs vont savoir que si on vole, on va avoir vraiment la main coupée. On a vu ça à la télé, ou bien on a vu des gens à qui on a coupé la main. Qu'est-ce qui va se passer? Je jure par Allah Ta'ala le Tout-Puissant que plus personne ne va voler. Et que le vol est une exception. Tu poseras tes bijoux dans la rue, personne n'osera les toucher, la peur qu'on lui coupe sa main, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas comme, je sais que si je vole, et après, qu'est-ce qui va se passer? Maximum, je vais aller en prison, une année, deux années ou trois, ensuite il va y avoir la grâce, et je vais sortir. Et dans la prison, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire des connaissances, il y a les amis. Il y a tout. Il y a dans certaines prisons, il y a même la bière. C'est possible de boire la bière et tu vois la télé. Et tu apprends même un métier. Tu apprends un métier et il y a même la drogue qui arrive. Et il y a même faire, si ce sont des hommes, et entre femmes, si ce sont des femmes, de haram. Donc il y a tout dans la prison. Mais maintenant, quand il va savoir qu'on va lui couper la main, plus personne ne va voler. D'où ce que j'ai dit, il n'y aura plus de mains qui seront coupées. La preuve, si quelqu'un va dire, donnez-moi une preuve flagrante, une preuve, yani, qu'on ne peut pas démentir. Je dis, le calife Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, qui a commandé à peu près 2 années, ensuite Omar, 10 années, ensuite Uthman, Et Ali, 12 années et 8, le tout prêt, pendant ces 30 années, combien qu'on a coupé de mains aux voleurs? 5 fois. 5 voleurs. 5 voleurs ont volé pendant 30 années. Pendant 30 années, seulement 5 voleurs ont volé dans toute cette période islamique. De Abu Bakr jusqu'à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Quand on va diviser 30 par 5, combien ça donne? 6 fois 5, 30. Donc chaque an, chaque année, il y a seulement 6 voleurs qui vont voler. Dans le monde, dans tout le monde, là, c'est pas dans une ville. Dans tout le monde, chaque année, on va trouver qu'il y a 6 voleurs. Quelqu'un qui a volé en Amérique, l'autre il a volé je ne sais où, l'autre, 6 seulement par an, pas par jour. Donc, tu dois croire que tout ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala de faire, comme jugement, que ça comporte la justice, et ça comporte quoi? Ça comporte la rahma, et ça comporte quoi? Ça comporte yani, la hikma, la sagesse, la grande sagesse. Vous ne voyez pas ici qu'il y a une grande sagesse dans tout cela? Une grande sagesse. Et j'ai dit la rahma, il y a la miséricorde. La miséricorde, je coupe la main à quelqu'un. La miséricorde, je tue quelqu'un. Oui, il y a la grande miséricorde, la grande rahma. Tu vas tuer une personne et des milliers à cause que tu aies tué cette personne, des milliers vont vivre, bi'idhnillahi ta'ala. Des milliers vont vivre à cause que il n'y a plus maintenant de criminels. Ils savent que s'ils tuent, ils vont être tués. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ Muslim, tu peux me donner ce verset en français? Tu peux me donner ce verset en français pour voir comment qu'ils l'ont traduit? وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ Je vais te dire où est-ce qu'il se trouve exactement dans Sourate Al-Baqarah. Je vais dire exactement où est-ce qu'il se trouve bi'idhnillahi ta'ala. Et toi, tu vas essayer, Inch'Allah Ta'ala, de le ramener en français. Verset numéro 178. Donc, je vérifie. Je vérifie. Non, 179, vers Al-Baqarah. Dis-moi, tu trouves comment ça a été traduit? Dis-moi comment ça a été traduit. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô oh, vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. Naam, c'est dans le talion. Le talion, vous savez ce que c'est, hein? Yani, tu me tues, je te tue. Tu m'enlèves mon œil, je t'enlève ton œil. Tu m'enlèves mon oreille, je t'enlève ton oreille. Le talion. Donc, c'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie. Exactement. Ça veut dire que si tu tues celui qui a tué, donc. Masha'Allah, regarde combien de vies vont être préservées. En tuant, tu vas préserver. Je tue le tueur, donc je vais préserver toutes les autres âmes. C'est-à-dire que personne ne va tuer, il aura peur. Mais quand il sait qu'il va aller en prison pour faire ce qu'il veut, assouvir ses passions, donc il va tuer. Mais si je le tue, je vais préserver des vies. Des milliers, des millions de gens ne vont pas être tués, bidnillah, parce que j'ai tué le tueur. المهم ici le cheikh dit رحمه الله il dit ولكن هل علينا ان نعمل بالاحكام التي جاءت بها الكتب السابقه mais est-ce que يعني maintenant nous c'est permis ou c'est obligé ou c'est permis de quoi يعني de disons de d'appliquer les règles et les jugements qu'il y a dans les livres précédents est-ce que maintenant par exemple moi comment je vais faire? C'est possible, c'est permis, par exemple, de prendre la Torah et de lire ce qu'il y a à l'intérieur et d'appliquer. Ou bien de prendre l'évangile et de lire ce qu'il y a à l'intérieur. Réponse. Naqul. Amma ma qassahu Allah alayna min hadihi al-kutub fa innana na'malu bima lam yarid shar'una bi khilafih. Le cheikh dit, tout ce qu'il y a dans le Coran qui parle des jugements, qui existe dans les livres précédents. Il a dit, tant qu'il n'y a pas dans le Coran quelque chose qui contredit cette chose, on applique ces choses-là qui sont dans les autres livres. Je répète, ce qu'il y a dans le Coran, comme verset, qui nous parle, qui nous chose qu'il y a dans les livres précédents, ces choses-là sont dans notre Coran et elles n'ont pas été contredites par le Coran, donc yani, c'est obligé qu'on applique ces choses-là. Je donne un exemple. Mithalu, qawlu ta'ala. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de la Torah, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la Torah.
Virale,
et la Torah, bien sûr, elle est descendue sur qui? Elle est descendue sur Moussa, alayhi salam. Sur Moussa, alayhi salam, sur Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit? Wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs, wal-ayna bil-ayn, wal-anfa bil-anf, wal-udhuna bil-udhun, wal-sinna bil-sin, wal-juruha qisas. Il a dit, فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ يَحْكُمْ بِأَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الظَّالِمُونَ. Maïda 45. Regardez ce verset. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Après ça, ils renoncent par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Donc en islam, Allah Ta'ala prescrit vie pour vie. Tu tues quelqu'un, on te tue. Œil pour œil, tu lui enlèves un œil, on t'enlève ton œil. Nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, et comme ça. Ensuite, il a dit, car c'est la loi du talion, mais après tout cela, si quelqu'un y renonce, et ensuite, ses héritiers disent, on ne veut pas tuer cette personne. Ou bien quelqu'un m'enlève mon oreille, ensuite moi je renonce. Je dis, ne lui enlevez pas son oreille. Par charité. Il a dit, c'est une expiation pour moi, c'est mashallah. Maintenant, personne ne m'oblige. Vous avez compris? Al-Mouhim, ce que je voulais dire, ce verset, il se trouve où? Et nous y avons prescrit pour eux qui? Ceux qui ont suivi, les juifs, ceux qui suivaient autrefois Moussa alayhi salam. Ça parle de la Torah, pas du Coran. Ce verset se trouve dans le Coran, mais parle de la Torah. Il dit, nous y avons, pour ceux qui suivaient, yani, Moussa alayhi salam, Moïse, en leur temps. Entre parenthèses, quand je dis les juifs, ça veut dire les musulmans d'autrefois. Car toute personne qui a suivi son messager en son époque, quand il était vivant, c'est un musulman. Pourquoi? Parce qu'il s'est soumis. Qu'est-ce que ça veut dire musulman? Muslim. Yani, il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, maintenant ce verset, il se trouve où? Il se trouve dans le Coran. C'est un verset descendu sur les juifs qui se trouve dans le Coran. Ce verset, on doit l'appliquer ou on ne l'applique pas? Est-ce parce qu'il est dans le Coran ou bien on ne l'applique pas parce qu'il est descendu sur les juifs? C'est quoi la règle? Tout verset du Coran qui comporte un jugement des livres précédents qui n'a pas été contredit dans le Coran, on doit l'appliquer. Est-ce que ce verset, il a été contredit dans le Coran? Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit, yani, c'est pas vrai, vie pour vie, œil pour nez, non. Est-ce qu'il y a une sunna, hadith du prophète, qui dit non, il n'y a pas dent pour dent, œil pour œil, il n'y a pas. Donc ça n'a pas été contredit. Donc, on doit appliquer ce verset. Et la preuve flagrante qu'on doit appliquer ce verset, regardez la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Donc, si tu n'appliques pas ce verset qui est descendu sur les juifs, tu es un injuste si toi tu ne l'appliques pas maintenant. Et quand on dit injuste, ça veut dire quoi? Ça veut dire péché, ça veut dire l'enfer, ça veut dire, vous avez compris. Et la preuve que ce verset n'a pas été, comment dirais-je, n'a pas été contredit, c'est le hadith authentique qu'une femme, où il est rapporté qu'une femme, une jariya, disons une jeune fille, on l'a trouvée dans l'agonie, agonisante. Il lui restait quelques minutes ou là pour mourir ou là quelques secondes. On a trouvé quoi? On a trouvé que quelqu'un avait mis sa tête entre deux cailloux. Il a commencé à frapper les deux cailloux. Deux cailloux, disons des cailloux grands, hein, des grands cailloux, jusqu'à ce qu'elle soit presque morte. Alors quand les sahabas sont arrivés devant elle, il y avait aussi, je crois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, ils ont commencé à lui poser la question. Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Elle ne pouvait pas répondre, elle était dans l'agonie. Alors on a commencé à lui citer des noms. Est-ce que c'est X? Elle faisait aucun geste. X, Y, Z. Ensuite on lui a cité, bien sûr on ne cite pas, on lui cite ses proches, ou bien on lui cite ceux dont on a des doutes, ou bien on lui cite ceux qui on a vu tout dernièrement avec elle. C'est pas on va lui citer yani, son père, sa mère. On va citer les qui peuvent yani, faire des choses pareilles. Mouhim. Ensuite, on lui a cité un juif. On lui a dit, c'est pas X, le juif. Elle a hoché la tête en signe de oui. En signe de oui, c'est lui. Elle ne pouvait pas parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait venir. Et lui a dit, c'est toi qui as fait ça? Il a reconnu. Il a dit, c'est moi. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a demandé qu'on nous ramène yani, deux cailloux. Et il a mis sa tête, on lui a mis sa tête comme ça, deux cailloux, là, deux rochers. Et on a commencé à frapper ou bien à serrer contre lui yani, les cailloux, comme un peu comme l'enclume, jusqu'à ce qu'il soit mort. Exactement comme lui, il a fait à cette fille. Et dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari, qui se trouve dans le Bukhari, que certaines personnes sont venues à Médine, qui n'étaient pas de Médine, sont venues à Médine. Est-ce que vous m'entendez, musulmans? Alhamdoulilah. Ils sont habités Médine, yani tout comme ça, tout nouveau. Ensuite, ils essaient de se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, on est déphasé. On est déphasé, c'est-à-dire, c'est pas la même atmosphère yani, que la ville où on vivait, donc on a des problèmes. On est tombé malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, écoutez, il y a quoi? Il y a un berger, non? Il y a son troupeau, c'est quoi? C'est pas des moutons, c'est des chameaux. Des chameaux. Et ces chameaux, c'est les chameaux de la zakat. Donc, va chez lui, allez le rejoindre, dites-lui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a envoyé, et il nous a demandé, qu'on te demande que tu nous donnes l'urine. Tu nous donnes l'urine naam, de ces chameaux ou de ces chamelles. Car le prophète Islam leur a dit, buvez de cette urine naam, et yani, vous guérirez bi'idhnillahi ta'ala. Al-Muhim, il leur a donné de l'urine des chamelles. Ils ont bu et bi'idhnillahi ta'ala, ils ont guéri. Et quelqu'un va dire comment l'urine de la chamelle va guérir. Je dis oui. Puis idhnillahi ta'ala, pour certaines maladies, hein, surtout les maladies des ventres. La maladie du ventre, il n'y a pas comme l'urine de la chamelle. Puis idhnillahi ta'ala, je dis chamelle, pas chameau. Et ici en Algérie, il y a des endroits où les gens viennent spécialement de tous les pays pour aller vers le sud, chez nous en Algérie, dans certains endroits, spécialement ils vont à l'hôtel et des hôtels qui ont été construits proches des gens qui ont les troupeaux de chamelles, etc. Spécialement pour boire de l'urine des chamelles. Et beaucoup, des milliers, si ce n'est pas des millions, hein, ont vu la guérison de leurs propres yeux. Et moi-même, j'ai parlé à des gens qui ont été là-bas et qui m'ont dit que ils sont maintenant, mashallah, surtout des gens qui avaient le cancer de l'estomac. Donc ça revient à quoi? Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que tout ce qui vient d'Allah et de son prophète, s'il est véridique, que tu dois y croire. Al-Muhim, quand ils ont bu, ils ont guéri, ils sont devenus, mashallah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué celui-là, celui qui leur a donné yani, l'urine. Comment qu'ils l'ont tué? Ils l'ont tué, subhanallah al-azim, en lui crevant les yeux. Si seulement ils l'ont tué yani, en étranglant, khlas, il est mort. Non. Yani, azab, ils l'ont châtié, torturé, en lui crevant les yeux avec je ne sais quoi, des clous, je ne sais quoi. Subhanallah al-azim. Et ils l'ont laissé comme ça au soleil, yani sa langue comme ça, qui sortait de sa bouche, yani cherchant de l'eau. Et s'il pouvait yani, boire yani, une goutte seulement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris cela, il a envoyé à leur recherche. Ils étaient 8. Ils les ont attrapés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé quoi? A demandé qu'on leur crève leurs yeux. Les huit. Il leur a crevé les yeux. Quelqu'un qui a été présent a dit, c'est comme si je les voyais maintenant. Il a dit avec leur langue, comme ça, yani, déliée, ou là, comment on dit, qui sortent de leur bouche, en train de quoi? En train de lécher le sable. Exactement ce qu'ils ont fait à ce compagnon, radiyallahu ta'ala, ou à ce compagnon, radiyallahu ta'ala. Al-Muhim. Donc on parlait de la loi du talion. Naam. Si quelqu'un va dire, j'ai frappé quelqu'un, puisque vous dites dans le verset, vous dites œil pour œil, dent pour dent. Il va dire j'ai frappé quelqu'un avec un caillou exprès. Hein. On ne parle pas de quand quelque chose ne fait pas une chose exprès. J'ai frappé quelqu'un avec un caillou, je lui ai cassé une dent. La dent existe toujours, mais cassée. Hein. Quand il ouvre sa bouche, il y a une partie de la dent qui manque. Comment qu'on va faire? On a dit dent pour dent. Comment qu'on va faire? On va dire à quelqu'un, prends un caillou et frappe-le dans sa bouche. Quelle est la preuve qu'il va l'atteindre dans sa bouche? Peut-être qu'il va l'atteindre dans ses yeux. Peut-être qu'il va l'atteindre sur son nez. Peut-être qu'il ne va pas l'atteindre du tout. Il va atteindre un arbre ou là une deuxième personne qui passait par là-bas. Vous comprenez? Et maintenant, supposons qu'il vise bien, et il a atteint sa bouche. Quelle est la preuve qu'il va atteindre la dent exactement celle que l'autre a atteint? Si c'est la molaire, si c'est comment qu'elle s'appelle, l'incisive, ou là, c'est l'incisive, ou là, comment qu'elle s'appelle, si c'est celle qui est au milieu, celle qui est à droite, quelle est la preuve? La preuve qu'il va atteindre la même dent. Ensuite, quelle est la preuve qu'il va le frapper avec le même caillou? Peut-être qu'il va le frapper avec un caillou plus grand. Ce sera une injustice. Quelle est la preuve qu'il va le frapper avec la même vitesse avec laquelle il a jeté le caillou? Et comme ça. Naam. Muslim Fawzi Zone 1. Vous qui êtes les trois, les admins. Comment d'après vous qu'il va faire? Comment que d'après vous on va faire? Comment que d'après vous? C'est impossible. Alors c'est impossible. Comment qu'on va faire? Khlas, ça y est. Donc, il m'a frappé. Donc, khlas, je vais à la maison, je pleure et je vais dormir. Donc, comment qu'on va faire? De deux choses l'une. Ou alors trois choses l'une. La première, ou bien, je pardonne, comme dans le verset. Il a dit si quelqu'un... Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Comment qu'a dit le verset exactement? Par charité, comment qu'il a dit? Une seconde. Si quelqu'un y renonce par charité, c'est une expiation. Non, si quelqu'un maintenant veut renoncer par charité, il renonce. Mais il y a la deuxième solution. Et la troisième. La deuxième, qu'on dise beaucoup de savants. Alors, je demande qu'on ramène... Comment ça s'appelle? Attendez, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Regardez, comment ça s'appelle en français? Quelque chose qui, par exemple, on prend, par exemple, quand on prend quelque chose, yani comme un couteau comme ça, qui est assez dur, ensuite on commence à se frotter les ongles pour que ça soit pas pointu, par exemple, pour que ça soit bien une lime, voilà, jazakallahu khair, une lime. Je dis alors, naam, ramenez une lime et je vais lui limer la dent, celle qui m'a frappé exactement, La molaire, par exemple, hein? Non, je vais la lui limer jusqu'à ce qu'elle devienne de la taille de celle qui m'a frappé. Si c'est à moitié, moitié. S'il ne reste qu'un quart, un quart. S'il reste un tiers. La lui limer, non, jusqu'à ce qu'elle reste exactement, qu'elle devienne comme la mienne. Troisième solution, c'est de quoi? C'est de dire, je demande qu'il me donne, par exemple, 100 euros. Je demande qu'il me donne 100 euros pour que je lui pardonne. Et dans ce cas, s'il veut que je lui pardonne, il est obligé de donner. S'il dit c'est beaucoup, mais allez, on va se concerter, parler, etc., jusqu'à arriver, inshallah ta'ala, à un résultat qui apaiserait mon cœur pour que je te pardonne si tu donnes telle et telle somme, bi'idhnillahi ta'ala. Al-muhim. هذه مكتوبة في التوراة هنا قال عز وجل لنا في القرآن ولكن الله عز وجل لم يقص علينا المعجم. طيب maintenant cette chose existe comment ce verset et cette loi là œil pour œil vie pour vie dent pour dent ça existe dans la Torah mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a-t-il cité dans le Coran qu'est-ce qu'elle veut que vient faire ce verset dans le Coran si ce n'est quoi si ce n'est que Allah ta'ala veut qu'on l'applique. Sinon, pourquoi il l'a mis dans le Coran? C'est pour ça qu'il a dit dans un autre verset, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ Dans le récit des messagers, il y a certes une leçon pour les gens doués et d'intelligence. Naam, Allah Ta'ala a mis ce verset, ou a fait descendre ce verset dans le Coran pour que ça soit un récit pour moi, une leçon. C'est un récit pour que ça soit une leçon pour les gens qui méditent. Qui méditent. Naam. Il a dit aussi Oulaïk al-ladina hadallah. Oulaïk al-ladina hadallah. Fabihudahu muqtadi. Fabihudahu muqtadi. Il a dit aussi en parlant des messagers, il a dit voilà ce que Allah a guidé, les messagers. Suis donc leur direction. Suis donc leur direction. Donc si Allah Ta'ala m'a parlé ici, de ce qu'il a dit à Moïse, à Moussa alayhi salam, ça veut dire c'est pour que je suive. Il a dit, suis leur direction. Sinon, je dis, moi, qu'est-ce que ça a à voir ici, ce verset? Il parle des juifs, il parle des chrétiens. Qu'est-ce que ça a à voir? Non, Allah Ta'ala, s'il l'a mis dans le Coran, c'est pour que tu le suives, justement, pour que tu le suives. Tayyib. فَمَا قَصَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَمَا نَقَلَهُ لَنَا مِنْ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ فَهُوَ شَرْعٌ لَنَا. Le cheikh dit, ce qu'il y a dans le Coran qui a été cité comme récit des messagers d'après nous, des livres d'après d'avant nous, des livres d'avant nous et des messagers d'avant nous, il a dit, il les a cités, ce n'est pas pour le plaisir de les citer. Ou alors comme ça, yani sans raison. Il les a cités pour que tu suives. C'est ça la sagesse, bi'idhnillahi ta'ala. Fa'idha warada shar'una bi khilafi. إلا إذا ورد شرعنا بخلافه فإذا ورد شرعنا بخلافه صار ناسخا لها. Mais maintenant, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala cite quelque chose dans le Coran, cite quelque chose de ceux qui étaient avant nous, ensuite, il y a quelque chose dans le Coran qui l'a contredit, qui contredit ce verset, donc là, c'est interdit de le suivre. C'est interdit de le suivre. Pourquoi? Parce que s'il y a des versets dans notre Coran, des versets dans notre Coran qui ont été abrogés, dans notre Coran lui-même, subhanallah, qui a été descendu pour les musulmans, il y a des versets qui ont été abrogés. Qu'en est-il maintenant que Allah Ta'ala n'abroge pas, yani, les livres qui étaient avant nous? Non. Quant à, écoutez, ça c'est important. Amma ma ja'a fi kutubihim. Quant à ce qu'il y a dans leurs livres, pas dans nos livres, pas dans le Coran. On ne parle pas maintenant de ce qu'il y a dans le Coran qui parle de leurs livres. Khlas, on a donné l'exemple de vie pour vie, œil pour œil. Ça, c'est quelque chose des Juifs qui a été, qu'on a trouvé dans notre Coran. Mais maintenant, si on va tout directement, on va à leurs livres et on trouve des choses. Qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là dans leurs livres? J'ouvre l'évangile et je suis en train de lire. Qu'est-ce que je fais? Il a dit, la nous saddiqou wa la nous kaddibou. Ni on croit à ce qu'il y a dans l'évangile, ni on le dément, ni on dit ça c'est pas vrai. Exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ce qui vient des gens des livres, ni vous le croyez, ni vous dites c'est pas vrai. Sauf bien sûr, si c'est quoi? S'il y a son démenti dans le Coran. Je donne un exemple, Je vais lire par exemple, c'est un exemple là, je lis dans l'évangile par exemple, je trouve par exemple, c'est juste un exemple là, c'est pas vrai. Je trouve par exemple que dans l'évangile que Jésus par exemple, ils disent qu'il a 40 ans par exemple. Et il n'y a pas dans le Coran quelque chose qui dise par exemple qu'il n'a pas 40 ans. Je le démens pas. Je me tais. Non. Bon, j'ai donné un mauvais exemple parce que Jésus, je sais que chez nous, il y a quelque chose qui dit qu'il y a 30 ou 33 ans. Mais supposons qu'il parlait de Marie, par exemple, et qu'il dise qu'elle est morte, par exemple, à 20 ans. C'est un exemple. Par exemple. Qu'il dise qu'elle est morte, par exemple, à l'âge de, disons, 30 ans. Il n'y a pas chez nous quelque chose qui dit que c'est pas vrai. Donc, on me dit Marie est morte à 30 ans, je me tais. Ni je dis oui, c'est vrai, ni dis c'est pas vrai. Mais s'il y a quelque chose de chez eux qui a été contredit chez nous, là, c'est terminé. Comme ils disent, par exemple, je vais lire l'évangile, je vais dire que ils disent que Jésus dit que yani, je suis le fils de Dieu. Là, je dois dire carrément, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Pourquoi? Car le Coran a dit que Dieu n'avait pas d'enfant. N'a jamais eu d'enfant, n'aura jamais d'enfant. Et que Jésus, c'est son serviteur, c'est pas son fils. Vous avez compris? Quand il y a quelque chose dans mon Coran qui dément, je démens, je dis c'est pas vrai. Et quand il n'y a rien dans mon Coran qui ne démente, qu'est-ce que je dis? Ni je n'y crois, ni je n'y crois pas. Je me tais, je reste neutre. Je reste neutre. Naam. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien alors, tu vas croire, si tu crois, tu vas croire en des choses qui ne sont pas vraies. En lisant l'évangile, si tu dis, je vais croire ce qu'il y a à l'intérieur, tu vas croire en des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des centaines de choses qui ne sont pas vraies, qui ont été ajoutées et falsifiées. Ou bien, si tu dis, je ne vais pas croire à ce qu'il y a en évangile, alors tu vas démentir des choses qui sont vraies. Vous avez compris? Dans l'évangile, il y a des choses qui sont vraies, qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Seigneur. Donc toi, en disant, je n'y crois pas, je ne crois pas en rien, en l'évangile, alors il y a des choses qui sont vraies, tu ne vas pas croire en elles. Comme par exemple que Allah Ta'ala a envoyé Jésus, il lui a envoyé tel livre et tel livre. Tu vas dire, non, je ne crois en rien. Je ne crois en rien en ce qu'il y a dans l'évangile. C'est pour ça que le prophète Hashem, qu'est-ce qu'il a dit? Ni tu crois, ni tu n'y crois pas. Tu restes neutre. Sauf dans les choses qui ont été, yani, dont il y a le démenti dans notre Coran. Non. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il a dit, ça rentre dans cela, par exemple, Mayoun Seb fi Akhbar Ben Israël, il a Akhbar Bad al-Anbiya alim Sarsal. Il a dit, par exemple, regardez, il a cité le cas, par exemple, de ce qu'il y a dans certains livres des enfants d'Israël, ce qu'il y a dans certains de leurs livres, comme par exemple, il a dit l'histoire de Daoud, alayhi salam, David, que comme quoi, ennahu ajabtu mra'a, comme quoi, Daoud, alayhi salam, il y a une femme qui l'a plu, qui lui a plu, une femme lui a plu, une femme de quelqu'un, c'est-à-dire une épouse d'un homme lui a plu. Et cet homme, c'était qui? C'était son soldat, un des soldats de Daoud, alayhi salam. Alors Daoud, d'après eux, alayhi salam, a aimé une épouse, une femme de quelqu'un, d'un de ses soldats. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a demandé à ce soldat d'aller faire la bataille, d'aller faire la guerre sainte. La guerre sainte. Hein? Peut-être que, yani, il tomberait mort. Il tomberait au martyr, alors il va, quoi? Alors il va lui prendre sa femme après lui, après sa mort. Comme ça qu'ils disent dans certains de leurs livres. Non. وأنه أرسل الجندي فبعث الله لجمع من الملائكة يختصمون لها فيقودهم بعده. Alors, après avoir envoyé ce soldat, يعني الله سبحانه وتعالى lui a envoyé des anges. نعم. Envoyé des anges pour se disputer devant lui. Disputer devant lui. Un des deux anges a dit, إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةً فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من خلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب. صاد 23 صاد 23 une seconde صاد 23 صح. Donc David dit, il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis. Donc il y a deux anges qui sont venus sous forme d'être humain, sous forme d'humain bien sûr. Ils sont rentrés chez lui et ils se sont disputés. L'un des deux a dit, il m'a pris ma brebis. Il avait 99 brebis, comme ça il a dit. Il a 99 brebis et il m'a pris, il m'a pris, yani, ma centième brebis. Daoud, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ah, attendez, hein? Je crois que vous ne le voyez pas. Et on me dit ici, ce message n'a pas été envoyé. Le message est trop long ou contient des caractères non affichables. Dommage, vous ne voyez pas le verset. Donc, je vais le diviser en deux, une seconde. Donc, quelqu'un des deux a dit que yani, j'avais 99 brebis et mon adversaire m'a dit yani, donne-moi la centième. Et donc il m'a pris son brebis, non, il m'a pris la centième. Et Daoud alayhissalam lui a répondu qu'il a été certes injuste envers toi en te demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Ensuite il lui a dit, beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Allah Ta'ala a dit, et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve, il demanda donc pardon à son Seigneur, et tomba prosterné, il se repentit. Donc, le Cheikh ici veut dire que tout cela n'est pas vrai. Dans leur livre, c'est écrit que David, Daoud alayhi salam, yani, il a été yani, malhonnête à ce point. Malhonnête à ce point. Vous allez, faut pas s'étonner qu'il dise ça d'un Nabi. Eux, ils tuent des messagers. Il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam que une fois, en une journée, une seule, les enfants de Banu Israël ont tué 70 nabis. Imaginez, 70 prophètes qui ont été égorgés en un seul jour. Non. Donc, faut pas s'étonner qu'on dise de lui, il a été malhonnête, il a fait la zina, il a volé, il a. El Mouhem, eux, ils disent que Daoud a joué un coup à quelqu'un pour lui prendre sa femme, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit dans le Coran? On dit que c'est une question de brebis et c'est pas une question de femme. Et ce n'est pas difficile, Allah Ta'ala, de dire femme au lieu de brebis. C'est pas difficile de dire que yani, c'était question de femme. Je vois pas pourquoi il va citer brebis à la place de femme. Une femme, c'est une femme. Une brebis, c'est une brebis. Donc, Allah Ta'ala veut montrer ici que Daoud alayhi salam a fait une faute. Quelle est la faute qu'il a faite? La faute qu'il a faite, c'est très simple. C'est que l'autre, lorsqu'il lui a dit, une personne est venue lui dire que, yani, une personne est venue se plaindre et lui dire qu'il y a une personne qui a 99 brebis. Et, yani, en sachant parler, etc., elle m'a convaincu et m'a pris une brebis que j'avais. Maintenant, elle en a 100. Moi, je n'en ai aucune. Qu'a fait la faute ici, Daoud alayhi salam? Il lui a dit que, yani, il a été injuste en te prenant ta brebis. Alors, c'est quoi la faute? La faute, c'est que il devait lui dire, va ramener ton adversaire pour que j'entende de lui comme j'ai entendu de toi. Naam. Toi, tu dis, c'est ça l'histoire. C'est bien, barakallahu fik. Ramène-moi l'adversaire que j'entende de lui pour pouvoir juger. Mais Daoud alayhi salam s'est hâté. Il a vite jugé et lui a dit, yani, il est des injustes. Il a été certes injuste envers toi. Il a été injuste. Mais, yani, quand Allah subhanahu wa ta'ala ensuite lui a montré la faute et il a reconnu qu'il a fait la faute, yani, il s'est ressaisi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ici, attendez, je lis un peu le verset plus haut, il a dit, et David pense alors que nous l'avions mis à l'arbre. Il a su que c'était une épreuve et qu'en fait, c'était pas des personnes, mais c'était des anges sous forme humaine. C'est une épreuve, Yadaoud, pour toi, pour voir est-ce que tu vas demander d'écouter l'adversaire ou tu ne demandes pas. Mais quand tu n'as pas demandé, donc c'est une épreuve, tu es tombé dans une épreuve, il a dit, il demanda pardon. Quand il a su que c'était des anges, vite, il a demandé pardon au Seigneur et il est tombé, prosterné et s'est repenti. S'est repenti et dit que jamais je ne ferai ça. Chaque fois qu'il y a deux adversaires, je dois entendre des deux, pas seulement d'une personne. Non. Donc, c'est ça la vraie, il y a une explication du verset et non pas comme disent les autres. Mais ce qui m'a étonné ici, dans ce verset, c'est quand j'ai vu la traduction, là où ils ont dit, regardez ce qu'ils ont dit, et David pensa alors que nous avions mis à l'épreuve. Alors il se prosterna ici. Mais en fait, ce n'est pas pensé. C'est quand il a eu la conviction, il a eu la conviction que c'est des anges et que c'est une épreuve, alors il s'est vite prosterné, il a demandé pardon. Mais ce n'est pas pensé. Pourquoi la faute vient d'où? La faute vient, comme j'ai dit, de certains qui ne connaissent pas bien l'arabe et qui vont traduire. Alhamdoulilah, c'est une traduction du roi Fahd. Sûrement, il a fait venir des gens qui connaissent bien le français, etc. Mais qui malheureusement ne connaissent pas bien l'arabe. C'est pour ça qu'ils ont fait cette faute. Car le verbe « vanna », en arabe, il a dit « Fadhanna Daoud, dhanna, ça veut dire penser et ça veut dire des fois être convaincu. C'est un verbe qui a deux sens ou plus, d'après le contexte. Des fois, tu dis avant, je pense. Et des fois, tu dis être convaincu et non pas seulement penser. Comme certains versets dans le Coran, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, il a dit par exemple là où il dit, il parle de quelqu'un qui va avoir l'agonie. Il a dit waqila man raq, et on demande où est le médecin ou bien où est l'exorciseur, où est celui qui va venir faire la ruqya. Ensuite il a dit wa dhanna annahu al-firaq. Dhanna ici, c'est pas il a pensé que c'est la mort, mais il était convaincu que c'est la mort, là c'est l'agonie. Wa dhanna annahu al-firaq. Wal-taffat as-saqu bis-saq. Et que la jambe s'est enlacée avec la jambe. Vous voyez ici, c'est dhanna, mais il n'est pas pensé. C'est il a été convaincu. C'est comme dans un autre verset où il dit inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya. Il a dit, prenez mon livre, lisez-le. Faqra'u kitabiyya. Lisez mon livre. Il a dit, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya. Je savais, j'étais convaincu. J'étais convaincu que quoi? Que j'allais rencontrer ce jour, j'allais rencontrer le jugement. C'est pas j'ai pensé. J'étais convaincu. Comme a dit Allah Ta'ala aussi dans un autre verset, الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مُلَقُ اللَّهِ يَظُنُّونَ Ils sont convaincus qu'ils vont rencontrer Allah. C'est pas ils pensent, ils doutent. Non, c'est pas penser ici, c'est être convaincu. Al-Mu'im, on va terminer, inshallah ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit encore ici? Il résume. Il dit Al-Khulasa. Résumé, et nous aussi, on va résumer, inshallah ta'ala. Résumé. Annama ja'a fi bi min qasmi al-qismain. Résumé, il a dit ce qu'il y a dans le livre, les livres précédents, Il a dit ça se divise en deux. Ça se divise en deux, ce qu'il y a dans les livres précédents, la Torah, l'Évangile, les feuilles de Moussa, Ibrahim, ça se divise en deux. Il a dit, أولاً, ما قصه الله علينا في القرآن وقصه علينا رسوله فهذا مقبول صحيح. Il a dit, ce qu'il y a dans notre Coran, ce qui a été cité dans notre Coran ou dans la Sunna, de leur livre, il a dit ça, c'est véridique. On doit l'appliquer. C'est comme le verset, la vie avec la vie, la vue avec la vue, l'œil, l'œil. Vous vous souvenez du verset. Pourquoi? C'est cité dans notre Coran. Ou Sani. Ce qu'il y a eux dans leur livre, pas dans notre livre, pas dans notre Coran. Ce qu'il y a eux dans leur livre, ceci se divise en trois. Trois groupes. Premier groupe, première sorte. Un yishada shar'una bi kalibi. Le premier groupe, c'est ce qu'il y a dans notre Coran qui dit que c'est pas vrai, qu'il dément. Dans ce cas, nous, on le dément. C'est comme, par exemple, dans leur livre, que, par exemple, Jésus, par exemple, c'est le fils d'Allah. Ça, dans notre religion, c'est faux. Donc, on le rejette. Deuxième sorte. Mais, shahida shar'una bi sitrihi. Ce qu'il y a dans notre livre qui dit que c'est vrai ce qu'ils ont dit. Dans ce cas, on l'accepte, même si c'est dans l'évangile. S'il y a une chose dans l'évangile qui est dite et qui notre Coran la reconnaît, il dit que c'est vrai, donc ça, on dit que c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est la deuxième sorte. Et troisième sorte, yani, ce qui se trouve dans leur livre et qui notre livre ni ne l'a confirmé, ni ne l'a infirmé. Il y a une chose chez eux qui est citée dans leur livre, dans l'évangile par exemple, et il n'y a dans le Coran ni son information, ni son infirmation, ni sa confirmation. Qu'est-ce qu'on fait de cette chose? On reste neutre. On est neutre. Ni on va y croire, ni on va dire que ce n'est pas vrai. Parce que si on va y croire, il est possible que ça soit une chose fausse. On va croire donc à une chose fausse. Et si on ne va pas y croire, on va dire c'est faux. C'est possible que ça soit une chose vraie. Et on vient de démentir une chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Préparez vos questions, inshallah ta'ala, 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et préparez celles qui ont d'abord relation avec le cours. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. Le prochain cours inshallah ta'ala comme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est quoi? C'est samedi. نعم, le prochain cours de samedi c'est le quatrième pilier, كتبه ورسله. Attendez, c'est quoi le quatrième ou le cinquième? C'est très rare. نعم, le quatrième c'est messager. On va parler de ces messagers. Aujourd'hui on a parlé de ces livres. Prochaine fois, c'est messager, inshallah ta'ala. Comme j'oublierai pas de vous dire que mercredi, inshallah ta'ala, on va commencer un nouveau livre. On va commencer un nouveau livre, inshallah ta'ala, mercredi, qui parle yani spécialement sur la tizkiya, le nefs, la tizkiya. On va parler sur le fait de se surveiller, la surveillance, le tawakkul, la véracité. Ces choses-là qui ont rapport avec tizkiya, qui aident, inshallah ta'ala, un peu à adoucir les cœurs. J'ai changé quoi? Rappelle-moi, Muslim. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai pas compris. Tu veux dire quand j'ai parlé des salafs, j'ai dit que... Exactement. Naam, le livre, c'est sur les pieux prédécesseurs. Ça, mais ça parle de ces choses-là. Les pieux prédécesseurs qui parlent du tawakkul, qui parle du sidr, qui parle de l'ikhlas et ceci, la sincérité, etc. Naam. Comme vous avez remarqué autre chose, que les cours ne commencent plus yani, à 20h, mais à 21h en Algérie. Dorénavant, pourquoi? Il n'y a pas comme autrefois, on faisait entre le Maghreb et j'allais prier, je reviens après l'Isha, on fait. Maintenant, on commence directement après l'Isha. Pourquoi? Parce que ça descend. Maintenant, c'est presque 21h et ça va descendre. 20h45, ensuite 20h30, ensuite 20h20, 20h15 et ça descend jusqu'à 20h, etc. C'est pour ça que je commence directement après l'Aïcha, inshallah ta'ala. Donc, subhanak Allahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullah.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. نعم je suis prêt. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir le PV cher pour que je vous envoie les questions? Et afouen cher si je parle un peu du nez. J'espère que la lecture sera tout de même claire. Donc je vous envoie les trois premières questions, Inch'Allah. Première question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Les anciens livres, pouvons-nous dire qu'ils sont également la parole d'Allah Ta'ala? Et s'ils sont la parole d'Allah, est-il permis à une personne de jurer sur ceci, comme pour le Coran, barakallahu fikoum, wa jazakumullahu khairan? Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah, cher. Vous avez dit que la loi du talion n'était pas abrogée, mais est-ce qu'il y a des conditions? Barakallahu fikoum, cher. Allah vous récompense dans le bien. Question suivante. Question également d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-il permis de posséder et lire la Torah ou la Bible ou autre livre révélé avant le Coran? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour la première question, les anciens livres, pouvons-nous dire qu'ils sont également la parole d'Allah Ta'ala? Et s'ils sont les paroles d'Allah, est-il permis à une personne de jurer sur eux, sur ceci, comme pour le Coran, barakallahu fikoum. Pour les anciens livres, les livres qui nous ont précédés, on peut dire d'eux que c'est la parole d'Allah Ta'ala en voulant dire que yani globalement ou là leur nom comme je dis la Torah c'est la parole d'Allah Ta'ala l'Injil l'Évangile c'est la parole d'Allah Ta'ala mais reste à prouver ça on l'a dit tout à l'heure dans le cours reste à prouver que c'est celle-là yani l'Évangile c'est ce livre l'Évangile et que c'est ce livre-là, la Torah. Car on sait qu'ils ont été falsifiés. Donc en parlant, si quelqu'un me dit, Allah Ta'ala a-t-il fait descendre un livre sur les chrétiens, qui s'appelle, sur Isa, qui s'appelle l'Évangile, je dis oui. Allah Ta'ala a fait descendre l'Évangile. Et a fait descendre la Torah sur Moussa et les enfants d'Israël. Mais ça ne veut pas dire obligatoirement et absolument que yani, le livre qu'il y a maintenant, c'est exactement celui-là. C'est vraiment celui-là. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, comment on dit, ils ont été falsifiés. Non. C'est pour ça qu'est-il permis de jurer une personne sur ceci comme pour le Coran. Tu peux jurer avec ceci à condition de d'avoir dans l'intention le livre descendu, le vrai livre que Allah Ta'ala a fait descendre. Tu dis par exemple, je jure. Par ce qu'a fait Allah Ta'ala descendre sur Isa, que telle chose est vraie. Je jure par ce qu'a fait descendre sur Moussa, ce qu'a fait Allah descendre. Ou je jure par yani, le livre, l'Injil que Allah Ta'ala a fait descendre sur Isa. Ou là, je jure par la Torah que Allah Ta'ala a fait descendre sur Moussa. Non. Donc je ne veux pas dire que c'est ce livre exactement, mais je parle du vrai livre. Inch'Allah Ta'ala que c'est clair. Non. Wa alaykoum salam, vous avez dit que la loi du talion n'était pas abrogée. Mais est-ce qu'il y a des conditions? Il y a des conditions. Et les conditions, je crois, Allah Ta'ala alam, que je les ai citées tout à l'heure. Il faudrait voir, par exemple, est-ce que s'il y a un meurtre, est-ce que ce meurtre est un meurtre volontaire ou bien involontaire, parce qu'il y a trois sortes de meurtres. Le volontaire et l'involontaire et quelqu'un qui est au milieu. Le volontaire, c'est par exemple de frapper quelqu'un avec un couteau, avec l'intention de le tuer. Et l'involontaire, c'est de frapper quelqu'un avec un bâton. J'ai frappé avec un bâton sur le dos, il est mort. Ou alors J'ai tiré avec mon fusil je voulais tirer sur un lapin. Et il y avait un bonhomme qui est passé, je ne l'ai pas vu. Je l'ai touché. C'est involontaire. Et il y a le milieu. Ça s'appelle Shibh al-Amad. Shibh al-Amad. C'est, yani, tuer quelqu'un avec une chose qui généralement ne tue pas. Tuer quelqu'un avec une chose qui généralement ne tue pas. Je le frappe comme ça, quelques coups sur le dos, et il est mort avec un bâton. Un bâton, normalement, ça tue pas. Mais il est mort, j'avais l'intention. Donc, Shib al-Amd. Al-Amd. Il faudrait que celui qui tue soit pubère. Si un enfant tue, qui n'est pas pubère, on ne le tue pas. Il faudrait, par exemple, que la personne qui est tuée, qu'elle soit dans ses raisons. Qu'elle avait la raison, par exemple. C'est pas quelqu'un de fou. Il faudrait que la personne qui a été tuée, que yani, ses héritiers demandent qu'on tue. Mais si ses héritiers disent, on accepte, yani, on ne demande pas la loi du talion. Certes, votre fils nous a tué notre père, mais nous les héritiers, yani, on demande seulement, yani, en contrepartie, par exemple, de l'argent. Sans chamelle, vous savez, si quelqu'un tue quelqu'un volontairement et qu'on ne le tue pas et qu'on veut prendre, de l'argent, on prend sans chamelle. Imaginez un chameau combien qu'il coûte, multiplié par 100. Si on veut moins, on veut moins, bien sûr. Le Cheikh Ibn Uthaymeen dit, c'est même permis de prendre plus. Plus. Il a dit, si quelqu'un va dire comment, Allah Ta'ala a dit sans chameau. Et comment moi, sans chamel, comment je prends plus? Donc je ne juge plus avec les lois d'Allah. Il a dit si. Il a dit qu'Allah Ta'ala a dit, ou là la Sunna montre que c'était sans chamel, c'est-à-dire, c'est ça le minimum. Pour pas donner moi. Il doit donner sans chamel. Mais si maintenant moi, je lui dis non, je veux plus, et que lui il accepte, il a dit c'est lui qui s'est désisté, c'est son droit. Ici ce n'est plus le droit d'Allah. Ici, c'est lui qui accepte. Moi, normalement, c'est 100. Je t'ai dit 200. Tu n'avais pas accepté. Tu dis non, moi, je donne seulement 100. Mais maintenant, soit tu veux donner 200 ou 300, que je t'ai demandé de donner, tu donnes, ben donne. Mais il y a un problème où? Un problème. Imaginez que quelqu'un est tué le père d'une famille. Muslim, vous m'entendez? Que quelqu'un est tué le père d'une famille. Et voilà que cette famille, le père quand il est mort, il a laissé par exemple deux garçons et une fille, ou les deux filles et un garçon. Ce sont eux les héritiers, ça. Normalement donc, ils ont le choix entre quoi? Entre demander que la personne qui est tuée, le criminel, soit tuée, ou bien demander quoi? Diya, demander les sans chamelle, ou bien pardonner carrément, on lui pardonne, ça. Maintenant, supposez que par exemple les deux filles ou là, les deux garçons ont dit, nous on veut la loi du talion, on tue celui qui a tué notre père. Et que la troisième personne, le troisième garçon ou bien la fille, elle a dit non, moi je veux qu'il nous donne l'argent. Ou bien je pardonne. Vous avez compris? Ou bien je pardonne. Comment qu'on va faire? Elle a dit moi je prends l'argent, je veux pas qu'on le tue. Donc, elle, regardez, cette personne, disons, ils sont deux garçons et une fille, il y a deux garçons et une fille. Donc, deux garçons et une fille, maintenant, Allah Ta'ala leur a offert, dans la loi du talion, il leur a offert le corps du criminel de leur père. C'est-à-dire qu'ils peuvent le tuer. Si les trois disent au juge, on veut qu'il soit mort, on va le tuer. Et on va le tuer de la même façon qu'il a tué notre père. S'il l'a jeté par la fenêtre, on jette par la fenêtre. Vous avez compris? S'il l'a jeté dans un puits, on jette dans un puits. Et comme ça. Maintenant, deux ont dit, on tue. La troisième a dit, je tue pas, je prends l'argent. C'est impossible d'appliquer la loi du talion ici. Pourquoi? On peut pas tuer une personne, disons, les deux tiers. Parce que cette personne qui a trois tiers. Ils sont trois héritiers. Chaque héritier a un tiers du corps. S'ils allaient le tuer, chacun aurait pris son tiers. Chacun a tué son tiers. Maintenant, il y a une personne qui dit « je tue pas, je prends de l'argent ». C'est impossible de tuer, par exemple, la personne seulement de la tête jusqu'aux hanches. On laisse les pieds, c'est pas possible. Donc, c'est obligé dans ce cas de quoi? De prendre l'argent et de ne plus le tuer. Si un des héritiers dit on ne tue pas, alors on ne tue pas. C'est pour ça qu'il peut y avoir une certaine ruse. Certaines ruses. C'est quoi la ruse? C'est que si jamais quelqu'un a tué et qu'il sait qu'il y a des héritiers, les savants ont dit c'est permis qu'il aille à l'un des héritiers et qu'il lui dise écoute, Nam, si vous avez tué, si vous allez tuer, tu ne vas rien gagner. Hein? Vous allez tuer notre frère qui a tué votre père, d'accord? Mais tu ne vas rien gagner, par exemple. Il lui dit, écoute, si tu vas prendre la dîme, tu vas prendre l'argent, ta part, par exemple, c'est, par exemple, ta part, ça va tomber 30 chamels. 30 chamels, c'est l'équivalent, par exemple, hein, de 20 000 euros, par exemple. Écoute, il lui dit, moi, je te donne 30 000 euros. 30 000 au lieu de 20 000. Je vais te donner 30 000 et dis aux héritiers, Yannick, que toi, tu ne tues pas. Que tu veux l'argent, c'est tout. Et l'autre, puisqu'il est riche, il est prêt à donner pourvu qu'il vive. Ils ont dit, ça, c'est permis. Non, c'est permis. J'ai rien fait d'anormal. J'ai pas voulu tuer, j'ai accepté l'argent. Il m'a donné l'argent. Ils ont dit, c'est permis. Dernière question, Inch'Allah, qu'est-ce qu'il dit? Est-il permis de posséder et lire la Torah ou la Bible ou d'autres livres révélés avant le Coran? Posséder pour lire. Il y a posséder pour lire et posséder pas pour lire. Si c'est posséder pas pour lire, c'est pas permis. Pourquoi? Quand je possède, supposons que je possède la Torah à la maison ou bien l'Évangile, il se peut que Yanni, quand je sois absent, ou là je vais au travail ou là, il y a des gens qui vont lire. Il y a ma femme qui va lire. Il y a mes fils qui vont lire. Mes enfants, moi je ne sais pas qui va rentrer à la maison, il va lire. Et il se peut qu'il soit pris de choubouette et d'ambiguïté. Et qu'il apostasie ou a'oudou billah. C'est pour ça que, ou alors que je meurs. J'ai acheté l'Évangile, il est à la maison, ensuite je meurs. Ensuite, mes fils ou mes enfants vont le lire, etc. Ils vont être influencés. Allez, premièrement. Maintenant, si je le possède pour lire, là, on va voir. Pourquoi tu lis? Si tu lis pour refuter, je lis pour prouver que ce qu'il y a été falsifié et pour pouvoir contrer quelqu'un quand il me parle de ce langage. Donc dans ce cas, il faut être vraiment un talibouin fort ou il faut être un savant. Sinon, ce n'est pas permis. C'est pour cela que c'est impossible que quelqu'un, par exemple, fasse un débat avec un chrétien ou un juif s'il ne connaît pas la Bible. Exactement comme le pape ou je ne sais pas le curé qui vient faire un débat avec les musulmans alors qu'il ne connaît rien au Coran. C'est pas possible. C'est pour ça que vous avez remarqué que les musulmans qui font des débats avec des chrétiens, si vous avez remarqué, vous avez vu, vous l'avez entendu, des audios, etc., c'est toujours, je dis, à 100%, pas 99%, à 100%, que ce sont les musulmans qui ont le dessus. Pourquoi? Pour deux ou trois choses. Le musulman connaît le Coran et la Bible. L'autre, il ne connaît rien du Coran, l'âme, et ne connaît même pas bien la Bible. Deuxièmement, le Coran est venu après la Bible. Et les deux sont venus de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est impossible qu'il y ait contradiction dans le dernier livre, celui qui a abrogé, il est venu après. Le Coran est venu après la Bible. Le Coran, c'est ce qu'il y a dans la Bible et plus. Donc, c'est impossible que quand il y a un débat entre un musulman et un chrétien, que ce soit le chrétien qui est le dessus. C'est impossible. Et plus tu connais ton adversaire,
tu connais son arme et ses armes, plus tu le vains, plus c'est toi le vainqueur. C'est pour ça que si vous allez voir les débats où il y a par exemple quelqu'un qui s'appelle Ahmed Didet, rahimahullah, avec les curés, les curés, les papes, et, tous ils parlent en anglais. Vous allez voir sur YouTube, c'est toujours lui qui a le dessus. Pourquoi? Parce qu'il connaît les quatre évangiles par cœur. Vous m'avez compris? Il connaît les quatre évangiles par cœur, comme il connaît le Coran. Comme il connaît le Coran. Et si toi tu vas débattre avec un chrétien et tu connais rien de la Bible, là c'est lui qui va te vaincre. Il va te sortir des choses de la Bible. Et tu connais pas de réponse. Tu vas lui dire, ah là, c'est vous qui avez raison. Mais je dis à cette personne, si tu lis la Bible pour la réfuter, c'est permis. Mais à condition pour la réfuter, ce n'est pas n'importe qui. Il faut être, comme j'ai dit, vraiment un talibou ilm fort ou bien un savant. Tfadlal.
Donc les trois prochaines questions. Question d'un frère. Salam alaikum cher, hafizakum Allah. Allah a interdit aux juifs certaines viandes dans la surat 6, verset 146. Est-ce que cette interdiction nous concerne aussi? Barakallahu fikum. Donc j'ai été chercher le verset, cher, je voulais couler. Et donc ce verset dit, aux juifs nous avons interdit toute bête à ongle unique, des bovins et des ovins, nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que porte leur dos, leurs entrailles ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion et nous sommes bien véridiques. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum cher. Allah et jazakum bikhir pour vos cours si bénéfiques. Voici ma question. Dans l'histoire de Daoud et des deux anges, les versets du Coran cités dans ce passage se trouvent-ils dans les écrits précédents de la même façon, c'est-à-dire mot pour mot à peu près? Sinon je n'ai pas trop compris le rapport entre l'histoire de la femme du soldat et celle de la querelle à cause des brebis. Barakallahu fikoum de m'éclaircir à ce sujet. Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum cher. Je suis marié depuis quelques mois. Je ne suis pas amoureuse de mon mari. Je n'ai pas de désir pour lui. C'est sûr pour l'intimité. Je suis malheureuse. Il fait de son mieux, mais je m'énerve pour rien. Et la raison est que je ne l'aime pas. Je m'en veux. Je pense à la séparation tout le temps depuis le début. Et dans cette histoire, j'entends un enfant dont je remercie notre Créateur. Mais je ne vois pas ma vie avec mon mari, ni ma vie dans l'au-delà avec lui. J'ai une baisse de foi. Je préfère être seul. Comment dois-je agir? Que dois-je comprendre dans cette épreuve? Sachant que j'ai appelé un imam, j'ai mis un CD de Ruqya. Je patiente avec souffrance. J'en ai parlé avec mon mari, il me dit de patienter, etc. Mais je ne peux plus passer. Mais plus le temps passe, et c'est toujours ce que je ressens. Je finis par penser à une séparation. Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tayyib, pour la première question, je monte un peu pour voir la première question. Naam. Allah a interdit aux juifs certaines viandes dans la sourate 646. Est-ce que cette interdiction nous concerne, nous, barakallahu fikoum? Comme il a dit aux juifs, nous avons interdit toute bête à ongle unique. Des bovins et des ovins, nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que porte leur dos, leurs entrailles ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi, les avons-nous punis pour leur rébellion. Cette chose est uniquement pour eux, pas pour nous. Pour nous, c'est permis les bêtes à ongles uniques, et c'est permis la graisse, etc. Ici, il a dit, nous leur avons interdit les graisses. Pour nous, c'est permis la graisse de l'animal comestible qui se mange. Et ce qui montre aussi que ce verset, c'est pour eux, c'est que Allah Ta'ala a dit à Allah, Allah a interdit aux juifs. Non, c'est-à-dire aux juifs, pas à nous. Walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit ceci, comme vous le savez, à cause de leur péché. Allah, à cause de leur péché. Comme il a dit dans le Coran, Kullu ta'ami kala. Il a dit, toutes sortes de manger étaient permises pour Ben Israël, sauf ce qu'ils ont interdit eux, ou alors ce qu'ils ont fait de par leur péché. Deuxième question, voici ma question. Dans l'histoire de Daoud et des deux anges, les versets du Coran cités dans le passage se trouvent-ils dans les écrits précédents de la même façon, hein? Naam, cette histoire se trouve dans leur livre. Cette histoire se trouve dans leur livre, mais bien sûr, pas en arabe. Pas en arabe. C'est avec la langue, avec leur langue. Avec leur langue. Le mohim, c'est le même contexte, la même histoire. La même histoire. Et le contraire, des fois, est vrai. Des fois, c'est comme par exemple lorsque Allah Ta'ala nous cite dans le Coran des passages où par exemple Ibrahim il a parlé avec les anges ou bien il a dit manger ou bien il est allé leur ramener un mouton rôti, etc. Ou là le dialogue entre lui et les anges ou là entre lui et ceux qu'il suivait ou là ses ennemis, c'est rapporté chez nous en arabe dans le Coran, hein? Dans le cas, en arabe. Et pourtant, il ne leur a pas parlé en arabe. Il leur a parlé avec leur langue, l'hébreu ou là, je ne sais pas quoi. Vous avez compris. Mais c'est nous, c'est rapporté en arabe parce que le Coran est descendu pour les Arabes. Non. Donc cette histoire, elle est là-bas. Elle est dans leur livre, avec leur langue. Sinon, je n'ai pas trop compris le rapport entre l'histoire de la femme, du soldat. Et celle de la querelle à cause des brebis. Eux, quand ils expliquent cette histoire, là, ils l'expliquent comme quoi, il y a ni Daoud, parce qu'ils sont allés chez Daoud, il y a deux personnes qui sont allées chez Daoud pour le questionner, etc. Ils expliquent cette histoire comme quoi, il y a Allah Ta'ala, il y a puni Daoud, et Daoud s'est repenti. Pourquoi? Parce qu'il a voulu prendre quoi? Il a voulu prendre yani la femme de quelqu'un. De ce soldat, il l'a envoyé à la guerre et pour lui prendre sa femme. Alors que Allah Ta'ala, yani, n'a pas parlé du tout de ça. Il a parlé de brebis seulement. D'une personne qui yani, une vraie histoire où il s'est passé Zama, deux personnes qui avaient une personne avait 99, l'autre non. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver Daoud alayhi salam, est-ce que il va faire venir l'autre adversaire ou pas? Il l'a pas fait venir, Allah Ta'ala lui a dit tu t'es trompé et ensuite il a fait le repentir. Donc le repentir c'était à cause de quoi? À cause de ne pas avoir présenté, demandé que le deuxième adversaire soit présent. Eux disent non. Ils disent c'est à cause qu'il a demandé à son soldat d'aller à la guerre pour mourir, pour lui prendre sa femme. Donc ça c'est pas vrai. Pour la troisième question, la personne qui a dit je n'aime pas mon mari, etc. Vous m'entendez? J'ai perdu le micro. Alhamdoulilah. Dans un cas pareil, les savants disent c'est permis à la femme de demander la séparation de son mari. Si elle veut patienter pour Allah, c'est permis. Surtout si elle a des enfants. Mais si elle n'a pas encore d'enfant, et que elle voit que c'est impossible d'aller plus loin. Donc, elle attend, je comprends. Mais c'est moins grave que d'avoir 5 ou 6 enfants et vouloir le khola. Donc, les savants ont dit que Allah Ta'ala a fait une issue pour la femme si jamais elle s'est mariée et a vu que vraiment c'est impossible d'aimer son mari. C'est impossible. Et que même elle a des difficultés à lui donner ses droits. Elle a des difficultés à lui donner ses droits. Ils ont dit, si elle patiente, c'est mieux pour elle. Mais si elle voit que vraiment, si ça continue comme ça, elle risque même de faire des péchés avec un autre homme, il vaut mieux qu'elle demande le khula, il vaut mieux pour lui qu'il la sépare. Qui se sépare d'elle. Car même pour un homme, c'est pas bien de vivre avec une femme qui l'aime pas. À quoi ça sert à un homme de vivre avec une femme qui ne l'aime pas? Donc, il vaut mieux que chacun aille de son côté. Ceci dit, ça c'est dans le cas bien sûr où la femme qui veut se séparer, qui ne trouve pas d'amour envers son mari, etc. C'est dans le cas où c'est une femme pieuse et sincère. Et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas, je dis bien, écoutez bien ce que je dis, et non pas une femme, par exemple, bien sûr, je ne suis pas en train de parler de celle qui a posé la question, pour que celle qui a posé la question ne croit pas que je parle d'elle, je parle en général. Je pense que celle qui a posé la question est une femme pieuse, Inch'Allah. Je parle donc, je dis, mais pas des femmes qui, par exemple, elles, quand son mari est absent, etc., elles passent son temps à, dans le chat, hein, dans le chat ou la chatting, ou la, comment ça s'appelle, avec des hommes. Ensuite, elle va quoi? Nouer une relation, lier une relation avec quelqu'un. En bas, elle va avoir des idées. Donc, j'aime pas mon mari, donc je le quitte. Pourquoi? L'autre, femme, classe, il a déjà relation avec lui, il lui a promis que il va lui acheter la dernière voiture et la grande villa et le femme. Il va l'amener vivre aux États-Unis. Ah, cela, si c'est comme ça, c'est vraiment haram. C'est vraiment haram, c'est vraiment haram. Et c'est de la tromperie et c'est de la duperie, ul'iyadu billah, et de l'infidélité. Naam, tfaddal.
Ah, mes chers, est-ce que vous pouvez me réouvrir le PV, Inch'Allah? Réécrivez-moi. Naam, je suis là, mais il s'est fermé. Le PV s'est fermé, si vous pouviez me le réouvrir. Voilà, alhamdoulilah. Donc les trois prochaines questions. Question d'un frère. Salam alaikum. Qu'Allah vous préserve. Comment réunir entre les versets du Coran qui disent qu'Allah protège ses prophètes et Isa Muhammad et le fait que dans les communautés précédentes, des prophètes ont été tués. Question suivante. Question d'un frère. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve. Les Illuminati, mensonges ou réalité, quelle est la position du Salafi face à ça? Barakallahu fikoum. Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum pour votre travail sur ce salon. Qu'Allah vous accorde une belle part ici-bas et dans l'au-delà. Cheikhana Abu Abdillah. Voici ma question, Inch'Allah. Pour Salat al-Witr, si je l'ai pris en 3 raka'at, sans tashahoud, après la 2e raka'at, puis-je lire à voix haute à la 3e raka'at, ou cela est valable que pour des premières raka'at? Tfadal, cher.
Salam alaikum wa rahmatullah. Naam. Pour la première question, qui dit comment joindre et réunir entre les versets du Coran qui disent qu'Allah protège ses prophètes et le fait que dans les communautés précédentes, des prophètes ont été tués. Je dis, la réponse est très simple, il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que Allah Ta'ala protège ses prophètes. C'est pour cela qu'il n'y a pas de contradiction. Mais ce qu'il y a dans le Coran, que Allah a dit à son prophète, il a dit, je te protège. Et que personne ne pourra te tuer. Personne ne pourra te tuer, bi'idhnillah. Je te protège. Wallahu ya'simuka minan nas. Donc, il l'a dit seulement à notre prophète, alayhi sallam. C'est pour ça que il n'y a pas de contradiction quand on dit que beaucoup de prophètes ont été tués et que les juifs, une fois, en un jour, ils ont égorgé 70 prophètes. A'oudou billah, a'oudou billah, a'oudou billah. Tayyib, la deuxième question. Les Illuminati, mensonge ou réalité? Pour dire la vérité, c'est la première fois que j'entends ce mot, les Illuminati. Et je ne sais pas si ça se mange en sandwich, ou bien ça se boit, ou bien ça s'habille, ou bien c'est quoi les Illuminati. Donc j'attends, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Il faudrait savoir ce que c'est les Illuminati, ensuite on va voir. J'espère que ça se mange, Inch'Allah, j'espère, hein. Quelque chose avec la mayonnaise, etc. Mashallah. Allez, c'est quoi les Illuminati? J'attends. Prends le micro.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, là-dessus, je ne pourrais pas vraiment vous renseigner. Je peux juste vous préciser que c'est un mouvement de pensée. Un mouvement de pensée de certaines personnes qui pensent être des illuminés, d'où le terme de Illuminati, qui vient de illuminer. Et qui disent en fait être supérieurs au reste du monde, au reste de l'humanité, et pouvoir contrôler le monde. Et souvent, Ils ont des symboles comme la pyramide avec l'œil, le et d'autres choses, et d'autres choses. Tfadal, cher. Mais j'ai jamais étudié vraiment leur pensée, cher. Donc je peux pas aller plus loin.
Donc dommage, ça se mange pas, dommage. Allah, il faut patienter. Asma, pour que je réponde, inshallah ta'ala, il faudrait que je sois sûr que c'est ce que tu as dit. C'est pour ça que j'attends que la personne, inshallah ta'ala, confirme. Hein, pour que je parle pas comme ça, yani dans le vide, alors peut-être c'est pas ça, Allahu alam. Donc j'attends, inshallah ta'ala, que la personne confirme. Je dis par rapport à l'autre question, la dernière, qui dit, hein, non, qu'est-ce qu'elle dit? Pour celui qui prie salat l'huître en 3 rakat, si je la prie en 3 rakat, après le deuxième rakat, puis je lui dis d'abord, si tu pries le 8 en 3 rakat, n'oublie pas que tu ne peux pas t'asseoir dans la deuxième rakat. Tu ne dois faire qu'un seul téchéhod, car si tu vas t'asseoir dans la deuxième rakat, tu vas faire 2 téchéhod, le premier dans la deuxième rakat. Et tu te lèves pour faire la troisième rakat et deuxième tashahhud, c'est pas permis à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que il est authentique. Il dit, il faut pas yani qu'il y ait yani 2 maghrib dans la journée. Et maintenant, si tu as fait comme un maghrib, c'est le maghrib où on fait 3 rakat et on fait 2 tashahhud. Taïb, maintenant il dit, est-ce que pour la troisième rakat, est-ce que je peux lire à voix haute? Je te dis une règle générale. Et toi, inshallah ta'ala, tu vas déduire tout seul. La règle générale, c'est quoi? Apprenez-la, elle est simple, et masha'Allah. C'est quoi la règle générale? Toute nafila, toute salat surérogatoire, tu es libre de lire à voix haute tes unités ou bien à voix basse. C'est une règle générale. Toute salat surérogatoire, tu es libre. Tu veux lire à voix haute, tu veux lire à voix basse. Ça dépend de toi, comment tu sens le khushu, quand tu lis à voix haute ou bien quand tu lis à voix basse. Non, c'est comme ça la règle du khushu, la règle de la nafila. Bien sûr, le prophète, si c'était une nafila, si c'était la journée, il lisait à voix basse, si c'est prière de la nuit, il lisait à voix haute. Mais ce n'est pas une obligation, c'est juste une sunna. La façon de lire haute, basse, c'est juste une sunna. C'est pourquoi. Dans la prière obligatoire, même pas nafila, dans la prière obligatoire, si tu oublies, au lieu de lire à voix basse, tu lis à voix haute, ou bien, au lieu de lire à voix haute, tu lis à voix basse, tu n'as rien à faire. Aucune prosternation de distraction. Vous avez compris? Imaginez, je vais prier Salat Isha. Et quand je termine, je dis, ah, subhanallah. Subhanallah, les 4 unités, je les fais à voix basse, alors qu'il fallait faire les 2 premières à voix haute. Est-ce que j'ai une prosternation? Je n'ai pas. Pourquoi? Parce que lire à voix haute ou bien à voix basse, c'est juste une sunna. Ce n'est pas une obligation. Donc, inshallah ta'ala, tu as compris pour la réponse que tu es libre, tu lis comme tu veux, inshallah ta'ala. Est-ce que tu as quelque chose à propos des Illuminati, n'am, ou les Illuminati, ou la. Des sandwichs dont on parlait. Est-ce que tu as quelque chose?
Non, mes chers, je n'ai rien reçu pour l'instant. Je n'ai rien reçu pour l'instant. Et le frère Zenzed a été déconnecté. Inch'Allah, donc la personne, si elle peut contacter Faouzi du 30, c'est pareil, Inch'Allah. Donc si le frère est présent, celui qui a posé la question sur les Illuminati, qu'il contacte le frère Faouzi du 30 pour lui dire si ce que j'ai dit était bon ou pas. Donc, cher, est-ce que je vous lis les 3 prochaines questions, Inch'Allah? Ou est-ce que vous voulez quand même parler des sandwichs? Tfadal, cher. Donc, je vous donne les 3 prochaines questions, Inch'Allah. Achizunzad, si le frère t'as répondu pour les Illuminati, dis-nous ce qu'il en est, Inch'Allah. Est-ce que tu as une réponse? Pas encore. Et va faire inchallah. Donc, question d'une sœur. Salam alaikum rahmatullah wa barakatuh. Une sœur divorcée, habitant seule avec ses deux enfants, demande si elle doit s'acquitter du sacrifice pour l'Aïd. Jazakumullah khairan. Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum rahmatullah wa barakatuh. Ma question concerne le djihad fi sabilillah, étant donné qu'il y a beaucoup d'agitation et de divergences autour de ce sujet. Bidillah, si je comprends bien, à notre époque, il n'y a pas de djihad fard-e-ayn. Cependant, concernant la guerre en Palestine, est-ce un djihad fi sabilillah fard-kifaya? Chaque musulman peut-il participer ou non? Peut-il participer ou non? Barakallahu fikoum ya cheikh. Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que pour les invocations du matin du soir, dans Hisn Muslim, pour entrer à la mosquée et pour chaque chapitre d'invocation, est-ce qu'il faut dire toutes les doigts ou bien juste en choisir une? Barakallahu fikum cheikhana. Wafaqakum Allah wa ahsanallahu ilaykum. Tfadal cheikh. Donc le frère a précisé que c'était bien ce que j'avais dit, cheikh, sur les Illuminati. Tfadal cheikh.
Puisque c'est comme tu as dit, alors Inch'Allah Ta'ala, répète-nous si c'est possible ce que tu as dit, car j'ai pas très bien suivi ni très bien compris. Tu me rappelles, tu as dit qu'il y avait un œil et il y avait une pyramide. Que fait cet œil sur la pyramide? Allah Ta'ala alam. Qulna Inch'Allah, ce que tu as à dire, tfadhal.
Non, mes chers, donc concernant les Illuminati, c'est un mouvement de pensée, un mouvement de pensée dont ces personnes qui font partie de cette secte, pour eux en fait ce sont des héritiers de personnes illuminées. C'est-à-dire eux sont illuminés par rapport aux autres, le reste de l'humanité, et ils veulent gouverner sur le monde. Et Allahu a'lam, c'est le symbole de la pyramide avec l'œil, parce que l'œil en fait est tout en haut de la pyramide. C'est pour dire qu'ils sont illuminés sur le reste du monde et ils voient tout. Ils voient tout et ils veulent contrôler l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, si vous regardez sur le billet du dollar, de 1 dollar, vous retrouvez ces deux symboles, la pyramide et l'œil. Voilà, cher. Après, je peux pas vous en dire plus. Je n'ai jamais étudié vraiment leur mouvement de pensée.
D'accord, j'ai très bien compris. C'est une secte et que le mot vient de illuminer, illumination, etc. Et que c'est un peu comme Osama dit, attendez, comment ça s'appelle rappelez-moi comment ça s'appelle, par exemple. Non, c'est pas ça. Comme par exemple, comme la télépathie, etc. Ce que je voulais dire. Elle-même, les 12 amis, ils sont illuminés, femmes. Ils ont quelque chose de supérieur, etc. Bon, je dis, il n'y a pas d'illuminati. Comment ça s'appelle, elle dit? Illuminati. Il n'y a pas d'illuminati. S'il y a, c'est chez les croyants. C'est pas quelqu'un qui est souillé, qui va aux toilettes, qui se lave pas, et qui maintenant il va être illuminé. Comment il peut être illuminé celui-là? Lui, il est plein de souillures. Lui, il n'a jamais connu son Seigneur. Il adore le shaitan. Qui va lui illuminer son cœur? C'est impossible. Ça, c'est une secte, c'est une secte, a'oudou billah, qui est la plus loin, vraiment, vraiment, vraiment loin de l'illumination. Loin de l'illumination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, naam, vous le trouvez dans les sunan, vous le trouvez, je crois, dans le Bukhari, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmahullah. Il dit, il n'y a pas une communauté où il y a eu, ou là où il y a, muhaddath, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il se parle à lui-même d'une chose, elle arrive comme il ne sait pas, comme il ne sait pas, comme il s'est dit lui. Il dit par exemple, je pense, dans son cœur, je pense que par exemple, peut-être cette personne est un escroc là. Et voilà, on va voir la vérité, cette personne est un escroc, c'est pas là. Et je pense que Mohim, comme ça arrive dans la réalité. Il a dit, il y a des gens qui sont comme ça. Il a dit dans chaque communauté. Il y a dans ma communauté, il y a quelqu'un. Il a dit, c'est Omar Lokhtab. Donc Omar, pas un autre. Omar, pas un autre. La preuve, le prophète sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et aussi par Cheikh Al-Albani. Il a dit, s'il y avait un messager après moi, ce serait Omar. S'il y avait un messager après moi, ce serait un prophète, un nabi. Omar al-Khattab, une fois il est rentré chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas encore le hijab, le fait de se voiler. Il a dit, ya Rasulallah, pourquoi tes femmes ne se voilent pas chez toi, rentre le pervers, le pieux, le n'importe qui, pour poser des questions, etc. Il voit tes femmes. Allah Ta'ala vite fait descendre le verset du voile. Que les femmes doivent se voiler. Exactement comme a pensé Omar al-Khattab radiallahu ta'ala. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire la prière sur quelqu'un, la tête des hypocrites. Et Omar a dit, il ne faut pas faire la prière sur lui. Le prophète a dit, moi je fais la prière sur lui. Il a dit, Allahu Akbar, et au point où même Omar l'a un peu tiré. Yani, arrête de faire la prière, subhanallah al-adhim, et le prophète Hashem a continué à prier sur lui. Allah Ta'ala fait descendre le verset quoi? وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَ أَبَدٍ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Et ne fais jamais la prière sur quelqu'un d'eux qui meurt. Ça veut dire que c'est Omar qui a raison. Subhanallah al-Azim. Omar avait cette illumination. Illuminé, un cœur illuminé. Quand quelque chose passe dans son cœur, c'est, yani, c'est la vérité. Même le prophète a dit que Allah Ta'ala a fait éclater la vérité sur ton cœur ou bien sur ta langue. Comme ça il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit de lui que le shaitan, si tu ne prends un sentier sans que le shaitan ne prenne yani, le sens contraire de ton sentier. Jamais le shaitan ne peut marcher sur le sentier où tu marches. Jamais, il change de sentier. Subhanallah al-Azim. Au point où, quand il rentrait des fois, chez le prophète, une fois il est rentré, toutes les femmes qui étaient assises devant le prophète, elles ont vite couru. Et elles se sont mises derrière un voile, comme un drap, comme ça. Ensuite, Omar avait remarqué, ou là le prophète lui a dit, ici les femmes, elles sont allées derrière le voile. Il leur a dit, Omar, ya adouat enfusikuna, oh vous les ennemis de vos âmes, ou quelque chose comme ça, vous avez peur de moi et vous n'avez pas peur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith dans le Bukhari, elles lui ont répondu, elles lui ont dit, oui, toi tu es un homme dur, le prophète n'est pas dur. Toi, tu es dur, on a peur de toi. Une fois, le hadith est authentique. Une fois, il y avait une jeune fille, pas encore pubère, une jeune de 8 ans, 9 ans, qui jouait avec du douf. Vous connaissez le douf, quand on prend d'une main et on frappe dessus dans le mariage, etc. Elle jouait comme ça et racontait des choses devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand Omar est rentré soudainement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis le douf sous son derrière. Et elle s'est assise dessus. C'est assise comme quoi je ne faisais rien. Et comme quoi Zama, je vais le cacher. Et le prophète a ri. Yani, regarde, devant lui, il la laisse jouer, il n'y a rien. Quand il y a Omar, non, rien ne bouge. Al-Muhim, au point où, une fois, il était sur le mimbar, et il a parlé, il est en train de faire khutbah sur le minbar. Il a parlé avec quelqu'un qu'il avait envoyé en bataille, chef de bataillon. Il l'a envoyé vers une autre ville, je ne sais pas combien de mètres, 500, 200, je ne sais pas. Du minbar, il a arrêté la khutbah et il lui a Seria, il s'appelait Seria. Il lui a dit Ya Seria, comme on dit Ya Mohamed, Ya Farid. Ya Saria, il lui a dit Jabal, la montagne, c'est-à-dire cache-toi derrière la montagne, attention que l'ennemi ne te vienne de dos. Ensuite, les gens se sont étonnés quand il a terminé la khutbah. En fait, qu'est-ce que tu disais? Tu parlais avec qui? Et quand ils sont revenus de la bataille, Saria, Saria, et veut dire à Omar, Nétesse, Nétesse, et en tes recommandations, on allait être vaincu. Heureusement que tu m'as prévenu qu'il fallait, donner le dos à la montée. Si j'avais entendu dire cela, il nous aurait vaincu. Subhanallah l'adem. Est-ce que quelqu'un peut parler d'un endroit et se faire entendre à des centaines de kilomètres? Il n'y a pas. C'est ça peut-être l'illuminé. Voilà quelqu'un d'illuminé. Voilà un illuminé. Quand tu me parles de quelqu'un, il y a des sectes qui ils sont noyés dans la drogue. La drogue et l'alcool. Et tout le temps en train de se piquer avec pour la drogue. Ils n'ont plus de sang. Leur sang, c'est l'alcool. Il est illuminé là. Allah. Chétan. Il y a beaucoup de problèmes dans cette série. J'ai vu une vidéo même qui disait que celui qui a mis en place Facebook, il disait rien qu'on avait un contrôle sur le. Asma, contrôle sur le monde. Les contrôler avec Facebook ou là, peut-être c'est vrai. Contrôler le monde, c'est vrai. Je peux moi contrôler le monde, faire des vidéos, des je ne sais pas quoi, des trucs pour contrôler, espionner les gens, etc. Mais dire que je suis illuminé, c'est-à-dire que j'ai la lumière dans mon cœur, une lumière qui vient d'Allah Ta'ala avec laquelle je vois, etc. Tout ça, c'est pas vrai. Ça, c'est shaitan fi shaitan. Maintenant, pour la deuxième question, inshallah Ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Salam alaikum. Il y a beaucoup d'agitation, de divergence. Je suis bidin, je comprends bien notre époque. Il n'y a pas de djihad fardain. Cependant, concernant la guerre en Palestine, est-ce un djihad fardain ou fardain kifaya? Chaque musulman peut-il participer au nom? Barakallahu fikoum, salam alaikum. Non. Pour ce qu'il y a en Palestine, non. Pour ce qu'il y a en Palestine, est-ce que vous m'entendez, musulman? Non. Pour ce qu'il y a en Palestine, c'est que ce qu'on doit savoir, c'est que vous connaissez tous les hadiths authentiques qui disent qu'il n'y aura pas la fin du monde. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la bataille qui va se passer. Avec qui? Avec les juifs. C'est connu. Et qu'ils seront cachés derrière les arbres, etc. Non. Reste maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement en Palestine? Non. Est-ce qu'il y a des accords avec les juifs ou il n'y a pas? S'il y a des accords entre des musulmans et des juifs, le prophète lui-même a fait des accords avec les juifs. Ça, quand il est allé à Médine, il voulait les expatrier, les faire sortir. Ils leur ont dit à Rasoulallah, laisse-nous ici et on partage les biens, ce qu'il y a. Nous, on travaille, on partage les biens. Quand il y a des accords entre des musulmans et des juifs, c'est interdit de violer les accords. C'est interdit de violer les accords. À condition que les accords ne soient pas à vie. Les accords, il faudrait qu'ils soient un certain temps. Pas à vie. Sinon, si c'est à vie, il n'y a plus le djihad. Comprenez? C'est pour ça que faut voir est-ce qu'il y a des accords entre les Palestiniens et les Juifs et s'il n'y a pas. Et deuxièmement, supposons qu'il n'y ait pas d'accord. Il n'y a aucun accord. Et supposons que les Juifs nous aient pris la moitié de nos terres ou là les trois quarts ou là. Est-ce que cela veut dire automatiquement que je dois les combattre? Pas automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il faut voir si j'ai les moyens. Est-ce que j'ai les moyens pour les combattre ou j'ai pas? C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, quand il leur a dit, à l'époque, quand il leur a dit que si c'est pas possible, que c'est pas possible. Et que même s'il fallait faire la hijra, faites-la. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala vous fortifie, vous donne des moyens, etc. Certains se sont étonnés. Comment il dit une chose pareille? Le juif, c'est le juif, il faut le tuer, il faut ceci, il faut cela. Mais il n'y a pas de fiqh, il n'y a pas de sharia. Comme dit le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit, quand tu veux combattre quelqu'un, si tu dois le combattre, il faut d'abord voir qu'est-ce qu'il a comme force et comme puissance, et pour que nous aussi, on se présente contre lui avec la même force, pour lui faire peur aussi, comme il a dit dans le Coran. Il a dit, pour que vous faites peur à l'ennemi d'Allah. Il faut que tu aies la puissance qui fasse peur à l'ennemi d'Allah. Maintenant, est-ce que toi, ou bien nous, si nous allons faire le djihad aux juifs, est-ce que nous avons les moyens? ce qu'ont les juifs. Quand on dit ce qu'ont les juifs, c'est ce que je voulais dire aussi. Ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, il a dit, si jamais tu vas combattre un pays en islam et que tu sais que ce pays va demander de l'aide à un autre pays et que cet autre pays, tu es sûr qu'il va l'aider, donc tu dois te préparer aussi et préparer la puissance de l'autre pays. C'est un peu, par exemple, les États-Unis. Est-ce que vous voyez, les Juifs sont les Américains? C'est possible ça? C'est pas possible. Les États-Unis et les Juifs, ça forme un seul animal. Donc, les États-Unis, c'est la tête, et les Juifs, c'est la queue. Vous avez compris? Vous avez remarqué, c'est impossible que, par exemple, les États-Unis critiquent les Juifs. Et pourquoi les Juifs, maintenant, ils ont de grandes cornes comme ça? Ils sont avec des cornes. Ils n'ont peur de personne. C'est pour cela. Parce qu'ils ont les États-Unis avec eux. Et qu'ils font partie des États-Unis, les États-Unis font partie d'eux. Et Obama, quand il est venu, si vous vous rappelez, dans le premier discours, il a dit, il faut pas oublier les Juifs. Ce sont des nôtres, nous sommes des leurs. Sans parler de quoi? Sans parler de la bombe atomique qu'ils ont. Sans parler de la bombe atomique. Vous savez qu'ils font la bombe atomique. Vous savez, parmi les rares pays qui ont la bombe atomique. Mais ils n'acceptent pas que les autres aient la bombe atomique, bien sûr. Seulement eux. Al-Muhim. Ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas encore prêt pour combattre les Juifs. Et on n'a pas les moyens. Et les combattre maintenant, serait te combattre toi-même. Serait aller te suicider. Vous voyez, hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à Palestine maintenant? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Maximum, ils lancent une fusée qui va tomber je ne sais où, sur une montagne qui fait un trou là-bas. Maximum. Ou alors ils blessent quelqu'un. Ils tuent quelqu'un au maximum. Et eux, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Des raids avec des avions. Et des bombardements, ils te tuent des familles. Non. Donc, question de puissance, question de... On n'est pas prêt. Faut dire la vérité. Faut pas se mentir et aller se suicider. Hein, on n'est pas prêt, il faut se préparer. Si tu veux contrer ton ennemi... Alors prépare-toi, comme a dit Allah Ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bi'adullahi wa adwakum. Tout cela, s'il n'y a pas d'accord entre nous. S'il y a des accords, il faut respecter les accords bi'idhnillahi Ta'ala. C'est pour cela que, conclusion, jusqu'à présent, les savants n'ont pas encore dit que le djihad en Palestine est fard'ain. Ils ne l'ont pas encore dit, car ils savent ce que je suis en train de dire là, c'est exactement ce qu'ils pensent, eux. Naam. Dernière question, inshallah ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Est-ce que les invocations du matin et soir dans Hisn al-Muslim pour entrer à la mosquée, pour sortir, etc., est-ce qu'il faut dire toutes les doigts ou bien en choisir quelques-unes? Je dis, il faut en choisir quelques-unes, c'est tout. Pour ce qu'il y a dans les invocations du matin et du soir. C'est pas qu'on fait quelqu'un, ils vont prendre le livre Hisn al-Muslim, ils vont le lire par cœur. Non. Ou bien ils vont lire toutes les invocations du matin, toutes les invocations du soir. Non. Hisn al-Muslim t'a dit, voilà ce que disait le prophète sallam quand il faisait telle ou telle chose. Mais il ne les disait pas toutes. S'il te donne deux ou trois choses, comme le fait par exemple de sortir de la maison, toi tu en choisis une. Tu dis une aujourd'hui, et la semaine prochaine tu dis la deuxième, une autre fois tu dis la troisième, et comme ça. C'est pas tu vas dire les trois choses pour sortir de la maison. La même chose pour la mosquée, pour tout ce qu'il y a dans le livre. Inch'Allah ta'ala. Tfadlal, je crois que tu vas me dire, Inch'Allah ta'ala, tu vas me lire les trois dernières questions et on va se quitter, Inch'Allah. Tfadlal.
Ah, cher, il reste la question sur le sacrifice. Tfadlal, cher.
Sacrifice, je l'ai oublié, ça. Le sacrifice, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour une femme, celui qui a les moyens et peut sacrifier, il sacrifie, Inch'Allah Ta'ala. Que ce soit un homme ou une femme, s'il peut et a les moyens et a ou sacrifier, n'am, ou bien il veut envoyer de l'argent à quelqu'un au bled pour sacrifier en son nom, qu'il le fasse, Inch'Allah. Il voit qu'il n'a pas les moyens, ou bien il n'a pas ou bien il ne peut pas envoyer. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل.
Ah, mon cher, donc les trois dernières questions, inch'Allah. Question d'une sœur, salam alaykoum, cher. Est-ce que la polygamie devient une obligation pour celui qui en a les moyens? Est-elle obligatoire? Peut-on rester monogame à vie? Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa cher. Barakallahu fikoum wa ahsanallahu ilaykoum pour le temps que vous prenez pour faire partager votre science. Et jazakumullahu khairan les admins. Pour le temps que vous prenez pour gérer le salon et le site. Je vais bientôt me marier, Inch'Allah. Mes parents ne cessent de me répéter tous les jours que je dois me préparer en apprenant la cuisine et que je ne sais rien faire. Tellement qu'ils me répètent, ça me bloque et ça me stresse. Ça a donc l'effet contraire qu'ils souhaitent et je ne fais rien pour me préparer. Je ne suis pas une pro de la cuisine, mais je ne suis pas novice non plus. Walhamdulillah. Tous les jours j'y pense et me dis. Plus les jours passent et plus le mariage approche. Donc je commence à angoisser et à ne penser qu'à ça et j'ai l'impression que ça me bloque pour faire les adorations. Wallah al-musta'an. Je me dis aussi que le mariage, ce n'est pas juste faire la cuisine. Donc je minimise un peu ce côté de l'affaire. J'espère que cette question ne va pas paraître futile, inshallah. J'aimerais avoir des conseils pour bien me préparer au mariage. En conclusion, que conseillez-vous à une future mariée, inshallah? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Dernière question, question d'un frère. Salam alaykoum, cher Abu Abdullah. Un frère a voulu faire nasiha à un converti, tablir. Il lui a donné des écrits de savants qui parlaient sur l'égarement et les erreurs des tablir. Ce jeune, après avoir lu, a eu de grosses ambiguïtés et a commencé à ne plus venir à la mosquée et à refaire des péchés. Et maintenant, il a peut-être arrêté la salate et il est en prison. Maintenant, les amis du tablir mettre la faute sur les frères, sur le frère qui est salafi, en disant que c'est à cause de lui que le frère tablier est en prison. Ma question est, que doit faire ce frère salafi? Doit-il se repentir ou est-il innocent? Que doit-il faire? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense, ainsi que ceux qui gèrent les deux salons. Tfadal cher.
La question dit, cher, est-ce que la polygamie devient une obligation là, devient une obligation pour quelqu'un qui a les moyens? Est-ce obligatoire? Peut-on rester monogame à vie? Je dis, la polygamie n'a rien à voir avec les moyens. On peut être milliardaire et rester monogame à vie. La polygamie, c'est pour quelqu'un s'il veut. C'est pas obligé, s'il veut. Il y a des gens, des musulmans qui sont des milliardaires et qui ne se sont mariés qu'une seule fois. Et maintenant, si la personne veut, on lui dit, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, on lui dit c'est permis. On lui dit c'est permis. Taïb. Pour la deuxième question. Pour la personne qui a parlé de cuisine, etc., etc., pour le mariage, je dis, il ne faut pas aggraver le problème. Il ne faut pas aggraver le problème. La mariée, quand elle va se marier, c'est avec son mari qu'elle va apprendre beaucoup de choses. L'essentiel maintenant, c'est qu'elle apprenne les choses, disons, dont on ne peut se passer. Apprendre, à cuisiner, du moins pour manger, commencer à manger. Ensuite, elle apprend. Elle apprend, avec son mari, en lisant des choses. Donc maintenant, si c'est pas on lui dit d'apprendre là, c'est quelque chose de bien. Alhamdoulilah, elle devrait être contente. Mais sans faire de ça le stress. Moi, j'apprends, c'est tout. J'essaye, etc. Pour que quand j'aille chez mon mari, je sais cuisiner, c'est tout. Mais l'homme en général, c'est pas son problème de cuisiner, c'est pas seulement ça le problème, comme elle aussi elle a dit ça. C'est bien de savoir cuisiner, mais c'est pas tout ça le problème. On peut cuisiner très bien, mais avoir un très mauvais caractère. Et on peut être, mashallah, et ne pas savoir bien cuisiner, et notre mari nous accepte. Donc, inshallah ta'ala, il faut pas faire de cela un problème. Et elle a maintenant l'occasion d'apprendre.
qu'elle apprenne, inshallah ta'ala, tant qu'elle peut. Ici, tout, inshallah ta'ala. Non. J'aimerais savoir quels sont les conseils pour bien préparer un mariage. Les conseils, c'est d'apprendre les règles du mariage. De connaître les règles du mariage et comment qu'une femme qui est mashallah devrait être et comment qu'elle devrait obéir, qu'est-ce qu'elle devrait faire de son temps, etc. Et d'essayer et de mettre l'intention du mariage que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est pour la vie. C'est pour la vie. Ensuite, si jamais il y a quelque chose, qaddar Allah, c'était pas dans l'intention. Contrairement à celui qui se marie avec l'intention que c'est pour essayer. Pour essayer, je vais voir. Si ça marche, ça continue. Sinon, je vais changer. Ça, c'est pas comme ça qu'était le self. Il se marie avec l'intention que c'est à vie. Ensuite, s'il y a quelque chose qui va apparaître, ou bien un divorce, ou bien une deuxième femme, ça c'est, alhamdoulilah, c'est rentré dans le maktoub, khlas. Mais c'est pas, il va rentrer dans le mariage comme un jeu. Un jeu et je vais voir si je gagne ou je perds. Non, c'est pas comme ça le mariage. Pour la dernière question, à faire des péchés, etc. Par du tablir. Tablir. Non. La personne, je dis, quand elle lui a donné des livres ou je sais pas, des nasihaoula, elle n'a fait que du bien. Elle n'a fait que du bien. Si maintenant la personne n'a pas su tenir le coup, c'est que elle-même déjà, elle était dans le faux. Elle-même, elle était dans le faux. Car normalement, ça devait réconforter son cœur. Ça devait réconforter son cœur. Donc elle, si la personne n'a pas pu tenir, est partie, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a éloigné. Allah ta'ala l'a éloigné. Elle ne tenait que sur un fil. Elle ne tenait que sur un fil. Si vraiment elle cherchait la vérité, elle voulait connaître la vérité, voulait s'approcher de Allah subhanahu wa ta'ala, elle aurait été contente d'être tombée sur un livre pareil. Elle aurait dit, alhamdoulilah, que Allah ta'ala t'est envoyé pour me guider, pour que tu sois une cause de ma guidance, ou la ma guidée. Mais cette personne, a pris le chemin opposé, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidée. Toi, tu n'as fait que lui montrer le chemin. Et Inch'Allah ta'ala, que tes intentions étaient bonnes, et que l'Inch'Allah ta'ala te donne le ajr. Et lui, s'il n'a pas accepté, il est parti, qu'il ne se blâme que lui-même, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, pour l'instant, je n'ai besoin de rien, bi'idhnillah ta'ala, à part que vous nous fassiez des doigts, Inch'Allah ta'ala. Donc, on va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, mercredi. D'ici mercredi, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous fortifier. Attends, tu vois, qu'est-ce que tu dis? Voyez, de famille, fortification. Si vous avez le livre. Non, j'ai pas le livre. Si vous avez le livre, qu'a écrit, j'ai pas le livre. Si elle peut envoyer ce livre, là où est-ce qu'il se trouve? Non, je l'ai pas. Naam, je veux le livre. Je veux le livre, Inch'Allah ta'ala. Essaye, Inch'Allah, essayez de me l'envoyer, bi'idhnillah ta'ala. Akhoya, barakallahu fikum, tous et toutes, et jazakumullahu khairan. Et Inch'Allah ta'ala, on va se rencontrer. Yom al-Arbi'a, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk, Allah vous préserve tous et toutes.